Bonjour tout le monde, bienvenue au quatrième épisode du podcast Le Powerplay présenté par la pourvoirie HMAC et Solutions Pro Luxe. Encore une fois aujourd'hui, j'étais avec Max. Ça va bien, Max?
Yes, toi?
Yes, ça fait un bout qu'on n'a pas fait de podcast. On va y aller tout de suite. On va faire un petit tour. On va partir avec les Canadiens. Ça va pas super bien.
Non.
Je vais te laisser la parole. Vas-y, qu'est-ce qui se passe avec notre Canadien?
En fait, on a passé la date limite des échanges. On avait une petite crainte de savoir qu'est-ce qui allait se passer. On s'attendait à quelque chose de gros. On a eu Eric Staal, qui a été une belle acquisition. Initialement, je pense que tout le monde était très satisfait. En fait, moi premier, honnêtement, pour ce qu'on avait donné, là, un choix de 3, un choix de 5, 50% de son salaire, je pense que c'était un bon trade, étant donné qu'on avait parlé même justement d'un centre de quatrième ligne un petit peu plus gros qui pourrait aider Jake Evans. Malheureusement, ça...
Bon, on va partir avec Staal, dans le fond.
Ouais.
C'est que moi, tout comme toi, j'étais satisfait, j'étais content de son avenue pour le voir jouer justement sur une quatrième ligne, là, Grindessa. Un petit peu surpris quand on l'a placé sur un deuxième trio. Ça, souvent, ça peut froisser des égos. On peut comprendre, le gars, il a une grosse stature, fait 100 millions dans la Ligue nationale, peu importe, gagne des Coupes Stanley. Mais on sait que c'est sur le... Il roule sa bosse d'équipe en équipe, fait qu'on peut dire qu'il est sur la pente descendante de sa carrière. Puis je pense que, en tout cas, ça n'a pas été long que les gens commencent déjà cette année de voir Eric Staal. Surtout avec du powerplay, c'est un gars qui n'a pas scoré de points sur le powerplay depuis une vingtaine de matchs. Puis, en arrivant, on parle de que Cole Caulfield, il faut qu'il mérite toutes ses affaires. Puis lui, ben ça arrive, powerplay tout de suite.
Ouais.
Ça a été long avant qu'on l'enlève.
C'est souvent un nom aussi, on en parle souvent. C'est Eric Staal, il a 35 ans, il a gagné des coupes, tu l'as mentionné. Mais là, justement, il arrive ici, puis là, il va nous aider. Je pense que oui, on l'a placé peut-être un petit peu trop haut, trop rapidement, à mon goût. Moi aussi, j'aurais aimé ça le voir commencer justement à sa quatrième ligne, acquérir du temps. Puis le temps d'avantage numérique me dérange plus ou moins, dans le sens que si un rôle spécifique, surtout avec la perte de Gallagher, ça pouvait avoir un impact. Mais là, je pense qu'on y a comme tout donné tout au début. Puis là, on espère qu'il va nous scorer un but par match. Puis c'est pas ça, Eric Staal. C'est plus ça, en fait. Là.
Ouais,
fait que je pense vraiment qu'on doit réduire son temps de glace, un peu comme Corey Perry. Si Corey Perry joue 17-18 minutes pour les Canadiens, ça va pas bien pour nous autres. Là.
Non, hein?
Fait que les meilleurs matchs qu'il joue, Corey Perry va jouer un 12, 13, 14 minutes selon les avantages numériques. Puis c'est là qu'il est payant. Moi, je veux pas voir Corey Perry à 5 contre 5.
C'est
pas sa force.
Si je peux me faire l'avocat du diable entre les deux, Corey Perry fait vraiment bien son travail de joueur de troisième, quatrième ligne. C'est rendu une peste, capable d'aller chercher des points aussi. Mais au-delà de ça, c'est une peste qui dérange, qui frappe dans la tête de l'adversaire. Je pense que j'ai l'impression que Eric Staal essaie d'être l'ancien Eric Staal qui est gros, qui domine, mais qui n'a plus la vitesse pour le faire.
Fait. Exact. Puis on le voit aussi, on l'a même remarqué, il essaie de circuler avec la rondelle, c'est plus Eric Staal, c'est plus ça. C'est justement, c'est un gros bonhomme, mais il faut qu'il utilise son avantage, son gabarit. Il joue avec Corey Perry présentement, sa quatrième ligne, mais justement, on veut les voir dans le fond de la zone épuiser les défenseurs adverses pour envoyer nos trios par la suite.
Oui, exactement. Fait que, est-ce que tu penses que l'expérience avec lui va se continuer? Est-ce que tu penses qu'on va essayer d'autres joueurs? Est-ce que ça va être le premier à écoper?
Je pense que oui, dans le sens que présentement, je vois pas d'autres joueurs, à part peut-être Lekkonen qui semble être le mal-aimé présentement de l'équipe. Mais tu sais, déjà, on l'a vu qu'il a été retiré de l'avantage numérique pour ce soir. J'ai hâte de voir le match de tantôt. Mais je pense que déjà ça a tempéré le nombre de minutes qu'il va jouer. Puis j'ai aucun problème à l'envoyer en fin de match pour gagner un face-off. Je ne vais pas le voir 17-18 minutes encore une fois. Là. C'est trop pour lui.
Oui, c'est exactement. Fait que pour les auditeurs qui nous disent, écoute, on entre juste avant la game de lundi soir contre les Oilers. C'est ça, comme tu disais ce soir, au moins, il n'est pas sur le power play. Si on continue de faire le tour, est-ce qu'il y a des choses... on va continuer avec la date limite des transactions, dans le fond. On a deux nouveaux défenseurs. On ne les a pas encore vus à cause de la quarantaine. Est-ce que tu sais quand ils vont être capables de rentrer dans l'alignement?
Ils seraient supposés d'arriver bientôt. C'était une quarantaine de 7 jours, là, donc je pense qu'ils devraient rentrer à mi-semaine. Puis ils faisaient déjà leur quarantaine à Edmonton, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'il devrait être disponible dans les prochains jours.
Oui, exactement. Puis, je pense qu'on en a bien besoin. Là. Ouais. Je pense qu'ils vont être capables, peut-être pas les deux immédiatement à la première match. Puis, j'aurais pas de problème à aller voir les deux. Ça dépend qui ont décidé d'enlever. En autant que ça soit pas Romanov, j'aurais pas de problème à rentrer les deux, là, honnêtement, à part Petrie. Il y a pas, que ce soit Kulak, que ce soit qui d'autre qui va jouer. Là, c'est Ouellet qui joue présentement, même Weber, qui on pourrait manquer un match une fois de temps en temps. En autant que ce ne soit pas Romanov puis Petrie, je pense qu'ils pourraient prendre la place de n'importe qui. Là.
Exact. Je pense qu'il y a aussi Edmundson là, qu'on doit garder dans,
oui, absolument. C'est l'autre que j'avais
dans le top 3 là, présentement. On a vu Chiarot les deux premiers matchs. Ça a été très, très difficile. Mais Weber va pas super bien présentement. Puis on a renvoyé Chiarot avec Weber en espérant que Weber va se placer en recevant Chiarot avec lui. Puis ça n'a pas été très, 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 très joli. Là. Fait qu'on va espérer qu'ils se replacent parce qu'on les a vraiment besoin dans l'alignement là, à leur plein potentiel. Là.
Ouais, c'est ça. Honnêtement, le Canadien, c'est une équipe que je trouverais bien bâtie du gardien de but, la défensive, avec un pilier en défensive qui était chez Weber. Puis honnêtement, depuis un bout, on le voit ralentir. Là. Ça s'en vient difficile, de plus en plus de monde qui en parle, mais moi, personnellement, je le vois, il fait des erreurs. Ça fait une couple d'années là, qu'il fait des erreurs, puis c'est correct, mais on dirait qu'il en apporte moins offensivement pour justement... puis là, on est à 10 millions, là... Qu'est-ce que tu vois de chez Weber présentement?
Ben en fait, moi, je vois un défenseur qui a l'air un petit peu stressé. Puis on dirait que ça va vite pour lui. Je sais que là, on joue beaucoup de matchs aussi. Là. Peut-être que le temps de repos, si vous regardez les minutes de jeu, il va jouer encore aux alentours de 23-25 minutes. Mais on dit qu'il ralentit, puis on joue des 3-4 parties par semaine. Donc moi, je pense que c'est vraiment de réduire, de diminuer. Puis justement, avec les nouveaux joueurs qui s'en viennent, Merrill puis Gustafsson, peut-être qu'on va être capable de balancer nos trois pairings pour pouvoir diminuer le temps de glace à Shea Weber, le distribuer à un peu plus de gens pour pouvoir maximiser son temps de glace qui soit bon pour le Canadien, là, pas qu'il fasse des erreurs comme qu'il le fait présentement. Là.
Oui, exactement, parce qu'on l'a vu jouer quand même des bons matchs une fois de temps en temps. C'est juste que là, récemment, là, ça commence à être plus difficile avec beaucoup de revirements. Puis tu sais, c'est comme tu dis, peut-être qu'il pense trop, il est stressé. On le voit faire des. Tu sais, c'est pas des erreurs de gars de 35 ans. Là. C'est vraiment. Puis on le voit les deux matchs en deux soirs l'autre jour contre les Sénateurs, ça a été très difficile. Puis c'était pas des erreurs. Tu sais, c'était littéralement des erreurs de Pee-wee. Là. C'est des erreurs mentales. Les gars, tu vois, sont fatigués. Ils font des affaires qu'ils savent qu'ils devraient pas faire, mais qu'ils le font quand même en essayant de runner sur les émotions, les instincts. Mais tu sais, qu'il faut que tu sois sharp. Puis on dirait que.
Ouais, puis on va espérer. Tu sais, actuellement, contre les Oilers, Shea Weber a connu des bons matchs. Hein. Il a toujours tenu Connor McDavid très loin. Je sais pas si Connor McDavid, il y a un problème contre Weber. On va le garder comme ça. On va se croiser les doigts, on va toucher du bois. Là. Habituellement, Weber connaît des bons matchs contre les Oilers.
Oui, c'est ça. Souvent, le succès est attribué juste aux attaquants, à Dano et sa ligne. Mais c'est vrai que c'est un match-up de 5 souvent qui va embarquer contre les grosses lignes. Comme tu as dit, Edmundson, on va continuer en défense. Ça continue de bien faire. On est très satisfait de ses services.
Exact. Puis là, on a même commencé la jaser justement là, pour le repêchage d'expansion. Puis on avait mentionné, on pensait tous que Weber et Trey Chiarot seraient les trois protégés. Je pense vraiment qu'on est en train de regarder pour protéger Edmundson puis laisser Chiarot de disponible. Puis si jamais il est repêché par Seattle, ben ce sera ça. Mais je pense encore que Jake Allen va être le candidat principal pour eux, là, c'est sûr.
OK. Puis toi, tu protèges encore chez Weber?
Je pense que Marc Bergevin, si c'est encore lui, je pense que ça va être dans son plan de le garder, son groupe de leaders. J'en ai entendu parler, de l'exposer. Mais est-ce que Seattle va le prendre à 10 millions par année?
Non, mais c'est pas de le donner, mais c'est justement que s'ils le prennent, tant mieux. Puis s'ils le prennent pas, tant mieux.
Oui, mais en fait, si on protège trois défenseurs, je verrais pas... Est-ce qu'on protège Weber ou Chiarot? C'est vraiment ça, parce que Petrie est obligé d'être protégé avec sa clause de non-mouvement. Edmundson, je pense qu'il faut vraiment le garder. Encore assez jeune en plus. Son salaire est à 3,5 millions. C'est un bon salaire. Après ça, ça va être sur le premier pairing qu'on se questionne, là, qu'on protège dans le fond. Là.
OK, fait qu'on on a terminé avec la cour de défensive. Il y a Victor Mété qui est parti au balatage. On l'a vu contre le Canadien, il a eu l'air d'un super bon défenseur. C'est peut-être parce que les Canadiens ont eu un très mauvais match.
Exact.
As-tu un petit quelque chose à dire là-dessus? Là?
En fait, je pense que ça fonctionnait tout simplement plus dans la pensée du Canadien en termes de défensive qui apportait. Victor Mété, je trouvais que défensivement, c'était difficile pour lui. Puis notre défensive n'est pas basée sur une grosse offensive. Fait que je pense que son rôle devenait limité. Puis ce qu'il pouvait apporter au niveau offensif, il n'était pas capable de le faire sur une base régulière. Donc moi, je pense que justement à Ottawa, qui va jouer un petit peu plus de façon offensive, si vous avez regardé les matchs des Sénateurs, là, c'est une brigade qui relance beaucoup puis rapidement. Bien, je pense qu'il va fitter un petit peu plus dans leur mentalité. Là.
Puis est-ce que le Canadien a mal... développer Victor Mété ou est-ce qu'il était vraiment dans une équipe qui était faible, qui a fait de la Ligue nationale, mais c'est un gars qui est borderline.
Si en fait, je pense que c'est vraiment un défenseur de troisième paire. Pour l'avoir vu là, depuis quand même 3 ans, je pense qu'il est arrivé un petit peu avec le Canadien par défaut. On s'entend qu'à gauche, il est arrivé avec Weber, puis on lui a dit ben go mon gars, parce qu'à gauche, on n'a plus rien. Puis là, ben, il a comme été à faire ses preuves. Puis après, ça n'a pas fonctionné. Puis on l'a comme relégué. Puis je pense qu'il a perdu confiance.
Ouais, avec l'avenue Chariot Edmondson, finalement, là, il a été. Est-ce que c'est vraiment un est-ce que c'est une erreur de développement ou c'était vraiment son ceiling?
Ouais, je pense que c'est un peu les deux. Dans le sens qu'il pouvait peut-être faire un petit peu plus que ça. Puis le Canadien a peut-être lâché un petit peu trop rapidement. Puis je pense qu'il avait perdu confiance. Donc je pense que c'est comme un mélange des deux. Là.
Parce que c'était une époque où le Canadien n'était pas une équipe de cap. Là. Il aurait pu trouver un défenseur à 1 million, 2 millions, puis le développer comme il faut.
Exact.
Il apportait rien. Là. Il a pas scoré de but à ses 100 premiers games. Je veux dire, il aurait pu le développer.
Exact. Puis tu sais, c'est vraiment un bon patineur. Puis c'est ce qu'on recherche dans la Ligue nationale. Puis on dit, un Samuel Girard, exemple, au Colorado, t'en as un petit peu. Là, Girard a beaucoup plus d'upside offensif. Puis je pense que justement, un défenseur de ce gabarit-là doit apporter quelque chose à ton équipe. Puis ça ne peut pas être souvent défensivement avec ce petit gabarit-là. Donc, il doit être capable de te leader un power play si tu mesures en bas de 5 et 10, si on veut.
Mais c'est exactement, c'est quelque chose qu'il aurait pu développer à ne pas être à Montréal sur une troisième paire tout de suite puis avoir aucun temps d'avantage.
Et de le garder justement à Laval, donner du power play à côté, je pense que ça aurait été quelque chose d'intéressant.
Ça s'en vient redondant, mais je pense qu'on en parle souvent.
Oui, exact.
Mais, exact, tu sais, puis c'est avec Cole Caulfield puis tout le monde qui veut le monter présentement, ça en vient un sujet qu'on parle souvent, mais je pense que ce gars-là avait un potentiel, puis je pense on dirait qu'on n'a pas vu l'amélioration de lui depuis une couple d'années. Justement, il a plafonné toute l'équipe de réserve. Septième défenseur, il ne joue pas souvent. Pratique, mais il ne joue pas.
Ouais.
Puis, c'était pour un jeune défenseur. Tu sais, il a joué gros au début, sa première année, mais après ça, ça a été graduellement que ça l'a descendu. Fait que je pense que ça fait le tour pour la défensive. On va aller en attaque. Une attaque qui ne produit pas. Une chance que Marc Bergevin est allé chercher Josh Anderson puis Tyler Toffoli parce que le Canadien serait littéralement en panne là, depuis la perte de Brendan Gallagher qui allait bien jusqu'à sa blessure.
Exact.
Un lancer de la pointe. On dirait que Brendan se blesse tout le temps de cette façon-là. Cette fois-là, c'était Romanov, c'était pas Weber. Mais l'attaque qui semble avoir...
Puis on cherche des combinaisons, on essaie plein de choses, puis on dirait qu'on n'est pas capable de trouver une formule qui va vraiment fonctionner pour plus d'une période ou plus d'un match. Là, on va voir ce soir, ça va être Anderson qui va jouer avec Tatar et Dano. Je pense que c'est le joueur qui ressemble le plus à Brendan Gallagher, qui va plus complémenter cette ligne-là. Mais ça veut dire que tu affectes tes deux autres lignes. Donc, j'ai hâte de voir. Là, on bouge beaucoup Byron, on bouge Armia qui vient de revenir aussi. Ça va être à voir ce soir-là.
J'aime bien de mettre Josh Anderson avec Dano, justement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une ligne qui va jouer 20 quelques minutes. Fait que si on veut voir Josh Anderson beaucoup, ben, c'est une belle place pour le voir.
Et voilà.
Je pense que c'est un gars qui est responsable défensivement. Là, il a de l'expérience, il ne fait pas d'énormes erreurs, apporte de la physique, physicality.
Ouais.
Puis je pense que c'est une belle place pour le voir. On va le voir souvent ce soir, j'ai bien hâte. Mais comme tu dis, c'est sûr que ça l'enlève du punch. Je regardais, c'est la troisième ligne là, qui whatever. Les chiffres, mais c'est la ligne. Jonathan Drouin a l'air tout seul sur sa ligne. Là.
Avec Kéké et Byron.
Byron,
ça devient une ligne qui n'est plus aussi offensive qu'il pouvait l'être.
Ouais, puis on l'avait dit que Jonathan Drouin a besoin de. Il bénéficie beaucoup de la présence de Anderson avec lui.
Ouais, totalement d'accord.
Fait que on va. Les autres lignes pour ce soir, on a Toffoli qui va jouer avec Suzuki et.
Armia,
exactement. Armia qui a été très bon là, dans la victoire de 2-0 des Canadiens. Le dernier match était à oublier pour tout le monde. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de misère à son retour. C'est sûr que je pense qu'il était affecté par le COVID plus que certains.
Ouais.
Fait que c'est ça. Mais je pense que c'est un gars qu'on a besoin, surtout au salaire qu'il fait, là, s'il peut contribuer. Juste rapidement sur Armia, est-ce que c'est un gars que tu penses qu'il va rester avec le Canadien?
Non, je pense pas qu'il va rester avec le Canadien, justement parce qu'on a parlé de Cole Caulfield, que je pense que c'est vraiment sa place qui vient prendre, là, si on veut, entre parenthèses. Je pense que ça va être Caulfield qui va prendre la place à Armia et qui va y copier.
Oui, puis Armia va se trouver une autre équipe. Est-ce que tu penses qu'il va continuer de faire 2 millions? Est-ce que tu penses qu'il va se mériter une augmentation sur le marché des joueurs d'autonomie?
Je pense qu'il va aller chercher à peu près ça, 2,5 millions. C'est un joueur qui en a joué sur une 3 la plupart du temps puis qui va pouvoir aller aider sur une deuxième ligne là, au besoin. Mais je pense vraiment que son rôle, à lui, ce serait une troisième ligne, affronter un troisième pairing à défensive. Puis je pense vraiment qu'il est bon avec la rondelle en protection de rondelle. Il est bon à récupérer des rondelles. mais c'est pas le patineur le plus rapide, c'est pas le gars qui gagne le plus de bagarres un contre un. Il est vraiment bon à protéger sa rondelle, par contre.
Oui, ouais, puis il y a un flair pour mettre la rondelle dans le filet qui est assez difficile. Tu sais, à 2 millions, c'est pas nécessairement un gars dont on se veut se débarrasser, mais c'est un gars qu'on voit pas nécessairement dans quelle chaise qu'on va le mettre. C'est
exact. Ce qui arrive, hein. Ouais. Il est entre deux tout le temps, on dirait.
Oui, c'est ça. Puis les agents libres via Materm, on en a plusieurs gros là, qui vont arriver avec Tatar et Tano. Puis ça va être des choix qui vont être à faire, des choix d'organisation. Ça va être à voir le prix qu'il va demander, là, selon moi. Si on est capable de le signer pour pas bien cher, des fois, je pense que c'est peut-être Tatar là, qui va écoper, tu sais, malgré le fait qu'il joue super bien récemment. Je pense que c'est peut-être lui, si lui il veut continuer d'avoir 4,5-5 millions, c'est peut-être l'option, ça va peut-être de garder Armia si justement il veut rester autour de 2 millions.
Entièrement d'accord. Ça va aussi dépendre de Dano. Je pense vraiment que la priorité présentement pour le Canadien, ça va être de signer Dano. Puis après ça, de voir si Dano refuse complètement, bien, je pense qu'on va vraiment tenter de garder Tatar avec le Canadien. Là, je pense,
OK. Puis vu qu'on est dans le sujet de Dano, il s'est replacé. Ouais. Honnêtement, j'aime le travail de Philippe Dano récemment, avec Tatar d'ailleurs. Là, puis quand Gallagher était là, c'était redevenu la meilleure ligne des Canadiens là, les 5-6 derniers matchs avant la blessure de Gallagher. Est-ce que tu penses... Qu'est-ce que ça vaut en ce moment? Là? Je pense qu'il y a des signatures qui sont similaires, des joueurs, je pense, à Philadelphie. Son nom m'échappe.
Lawton.
Lawton, oui, ouais. Exactement.
Ben, je pense qu'il va aller chercher plus que Lawton avec plus d'expérience. Là. Okay. En fait, si je ne me trompe pas, Lawton, c'est aux alentours de 3,5, si je me trompe pas.
Exactement.
Je pense qu'il va aller chercher plus que ça parce que c'est Dano, c'est sa réputation, puis c'est ce qu'il a fait dans les dernières années. Je pense qu'il va jouer beaucoup là-dessus, puis je pense qu'il va vraiment se comparer à Jean-Gabriel Pageau, qui gagne 5 millions, si je ne me trompe pas, ou 6. Mm-hmm.
Qui signait avant le
COVID. Exact, avec les Islanders, puis je pense que c'est un contrat qu'il va vouloir aller chercher. Là. Si je ne me trompe pas, c'est 6 ans, 30 millions.
Oui, exactement, je pense que c'est exactement ça.
Fait que je pense vraiment qu'il va viser le 5 millions. Je pense pas que le Canadien peut vraiment s'offrir Dano à 5 millions, surtout avec l'émergence de Suzuki, Kotkaniemi, que ça va plus difficile présentement, mais je pense vraiment que c'est l'avenir du Canadien. Je pense que ça s'enligne pour ça, en fait. Là.
Ouais, c'est s'il demande 6, c'est sûr qu'il n'y aura pas ça.
Exact.
Là, si on descend en bas de ça, 5,5, je pense pas que ça rentre dans la masse salariale du Canadien.
C'est le problème.
Là, si on descend à 5.
Si on descend à 5, c'est parce que la possibilité, c'est qu'il demande une année de plus. Est-ce que tu es prêt vraiment à offrir une sixième, une septième année, voire peut-être même une huitième pour un centre un peu plus défensif, là, qu'on va dire. Là. C'est ce qui me fait un petit peu plus peur dans le cas de Dano, là, ouais, à mon avis.
Je suis d'accord. Je pense que dans le monde, les agents sont tout le temps bons pour aller chercher tout ce qui... ça dépend si Philippe Dano veut rester à Montréal.
Exact.
Je ne suis pas certain. 5 millions, je ne suis pas sûr que j'y donne non plus. C'est peut-être 5 fois 5. Comme tu dis, il va vouloir la sixième année.
C'est ça. Si on laisse à 5, d'après moi, il va vouloir laisser la sixième année. La sixième année, ben, ça fait en sorte que tu tombes comme dans une deuxième phase, si on veut. Souvent, on calcule en 3 puis 4 ans pour les équipes, là, monter le bassin de joueurs, si on veut. Je pense qu'il va vouloir aller chercher une sixième année. Là, malheureusement pour le Canadien. Là, en même temps, on voit des joueurs qui progressent bien. Moi, j'aime bien, je regarde beaucoup le Rocket de Laval, puis j'aime bien Paling, ce qu'il fait présentement. Donc, si on est capable de dire, bon, ben, on se lance avec nos jeunes centres, puis on essaie de prendre des joueurs plus matures à l'aile, ben, ça pourrait être une avenue qui est intéressante comme Paling ou une troisième centre. Là.
OK. Faut que je te mette sur le spot.
Ouais.
Ton gut, qu'est-ce qui va se passer avec Philippe Dano cet été?
Moi, je pense qu'il signe ailleurs.
Il va signer ailleurs?
Ouais.
Environ
5,5? Aux alentours de
5,5. All right, parfait. On va
il y a des équipes qui n'ont besoin.
je vais juste sortir le clip si tu as raison. Si tu es dans le champ, je ne le sortirai pas. On va continuer de faire le tour, Max. Le Canadien, si on regarde les autres lignes, là, tu l'as mentionné, Suzuki, ça l'a ralenti un petit peu. J'ai bien aimé une couple de ses parties récemment, mais il commence à se faire des haters. Au début, c'était unanime. Moi, j'aime encore sa partie, ce qu'il s'y apporte, mais on dirait que les autres équipes se sont ajustées.
Exact. Puis c'est un joueur qui est très intelligent, mais c'est pas le plus rapide. Si vous regardez un match, là, c'est pas le gars qui va déborder un défenseur à plus d'une fois dans un match. Donc, c'est sûr que les défenseurs, ils sont un petit peu plus à l'aise à le jouer. Puis après ça, ben, ils l'ont vu. Ça, c'est la deuxième affaire.
Ouais.
Puis souvent, on l'a ciblé que c'était notre premier joueur de centre, puisqu'on avait reculé Dano. Donc, il affronte les premiers pairings en défensive, que peut-être que les 10 premiers matchs, ben, il affrontait peut-être les deuxièmes pairings. Puis ça, ça fait vraiment une différence aussi. Là.
Ouais, ouais.
Moi, je l'aime beaucoup en avantage numérique à cause de sa créativité.
Ouais.
Mais je vois qu'à 5 contre 5, c'est plus difficile.
À cause de sa vitesse.
Mais c'est pas un problème pour lui que je vois à long terme parce que ça va s'améliorer, il est encore jeune. Ouais. Mais vraiment, présentement, contre les premiers pairings, c'est sa faiblesse. Ça, c'est mon opinion.
Parfait, j'aime ça où tu t'en vas. C'est exactement là où je m'en allais, la question. Tu penses pour un avant, c'est possible de développer là, sa vitesse pure, si on peut dire, à partir de l'âge de 21 ans? Il n'y a pas de problème, selon toi?
Non, ça se développe encore parce que les gars font du power skating l'été. On l'avait même vu avec Kotkaniemi l'année dernière comparativement à cette année. Je trouve qu'il a pris un step. J'aimerais ça qu'il en prenne encore un. Là. Mais les gars, ils se paient des professionnels pour faire que ça là, durant l'été. Donc, c'est entraînement physique. Puis, on va aller chercher du power skating, qu'on appelle, à l'été. Chercher la glace, aller chercher l'explosion. Parce qu'au niveau de l'explosion, il est quand même pas si pire. C'est vraiment son allure de train qu'on dit. Là,
son top speed.
Là, il est peut-être un petit peu déficient comparé à un premier centre dans la Ligue nationale.
Oui, exactement. Mais comme tu dis, tes premiers centres de 21 ans, il n'y en a pas bien. C'est quelque chose à en devenir.
Ouais.
J'aime bien ça parce que, comme tu dis, c'est quelque chose qui manque pour devenir élite. Son maniement de rondelle est élite. Un lancer qui est très bon, qui pourra continuer d'améliorer. Tu l'as dit, là, sa force physique. C'est un jeune de 21 ans. On sait que les hommes prendre la force physique jusqu'à une trentaine d'années, même plus. Là, fait que, dans son cas, je pense que ça l'augure bien. Sur les mises en jeu, ça va l'aider aussi de prendre de la force physique. Tu l'as mentionné, là, sa créativité, c'est vraiment ce qui le sépare des autres joueurs. Ça, puis ils sont juste sur 200 pieds.
Exact.
Ça l'augure bien. On espère, mais comme tu disais, si on décide d'apporter Poehling, est-ce que c'est le Canadien qui décide de... Là, on va avoir 3 jeunes centres, puis peut-être 4. Là, est-ce que ça se fait?
Ben, ça se fait.
Est-ce qu'on parle pratiquement d'un rebuild? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver si c'est pas Marc Bergevin plus? Puis si c'est Marc Bergevin, on va peut-être y aller
exact.
De l'autre côté.
Ça se fait parce que présentement, la Ligue nationale, tu n'as pas le choix d'avoir des jeunes pour ta masse salariale, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut que tu fasses un choix. Si tu n'es pas prêt à faire ça, ça veut dire qu'il faut que tu échanges Suzuki ou Kotkaniemi. Puis, je pense que les gens seraient prêts à plus à laisser Kotkaniemi. Hein? On ne se fera pas de cachet. Je pense que les gens apprécient plus Suzuki. Mais je pense que le retour va peut-être moins intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que ça laisse aussi une place au centre. Ça veut dire que tu re-signes Dano. Il te reste quand même un troisième centre là, que tu vas devoir aller chercher. Donc, tu risques de monter Poehling quand même. Moi, c'est un petit peu ça que... Je suis prêt à dire, bon, ben, Poehling, viens-t'en, puis on va vous mettre des ailiers un petit peu plus matures de chaque côté, puis ça va te libérer de la masse salariale pour aller chercher peut-être un ailier un peu plus mature, un petit peu plus physique pour protéger nos jeunes joueurs de centre.
Oui, en effet, c'est exactement ça, mais c'est comme tu dis, ça va être une décision d'organisation de voir où est-ce qu'on va avec ça. Si on continue, l'autre ligne, on a KK. Je pense que c'est une saison satisfaisante. On voit des choses. Là. Il va y avoir l'éternelle comparaison avec Brady Tkachuk qui fait énormément mal. Moi, je pense que c'est un joueur que j'aime ça regarder jouer à tous les soirs. Je pense qu'il se donne. On a vu beaucoup de gars récemment avec des performances qui seraient très décevantes. Là. Des performances que si j'aurais été assis, peut-être pas personnellement, mais si j'aurais été assis dans le Centre Bell, il y aurait gros des gens qui auraient hué. Peut-être pas nécessairement parce que je ne crois pas à ça. Là, mais je veux dire, il y a des performances très, très, très décevantes là, récemment. Fait que,
Puis je pense que c'est, on le dit, mais c'est le plus jeune joueur de centre dans la Ligue nationale.
Ouais,
ça exact. Fait 3 ans qu'on le voit, mais c'est le plus jeune joueur de centre de la Ligue nationale.
Ouais.
J'aimerais ça le rappeler à tout le monde, là, parce qu'il joue dans la Ligue nationale à 20 ans.
Ouais.
Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se le permettre. Puis je le sais qu'il y en a qui vont dire « Brady Tkachuk est 4 fois meilleur ». Brady Tkachuk est meilleur dans son rôle.
Ouais, c'est ça,
et les Sénateurs sont faits pour rebâtir, tandis qu'on s'attend à ce que Kotkaniemi soit déjà à son plein potentiel à 20 ans. C'est deux mondes complètement différents. Est-ce que vous verriez, vous, là, Chabot, à Montréal, jouer 30 minutes?
Non, c'est ça, exactement.
On pourrait l'avoir à gauche pour jouer des minutes, mais je pense qu'on le verrait 30 minutes et on dirait « mais il fait donc bien des erreurs ». Mais il en fait à Ottawa, puis on accepte parce qu'on le sait qu'on est en reconstruction complète.
Ouais,
donc,
exactement.
C'est vraiment deux mentalités différentes. Fait, c'est ça que je trouve difficile. C'est sûr que Brady Tkachuk, je le prendrais avec moi. Là.
Ouais.
Un joueur comme ça, ça se trouve pas partout. Là. Hein? Mm-hmm. Toutes les équipes le haient pour mourir. Puis en plus, il score des buts. Donc, c'est sûr que c'est intéressant à voir. Mais je pense que le Canadien cherchait un joueur de centre à cette époque. Il n'y avait pas Suzuki dans son roster au moment du repêchage. Puis on est allé le chercher. Là.
Je pense que les joueurs de centre, là, c'est tellement sous-estimé par les gens qui ne jouent pas au hockey, même des gens qui jouent au hockey, mais qui n'ont jamais essayé d'être centre, hein? Mettons. Tu peux pas voir à quel point c'est difficile. Puis toutes les petites choses, puis les choses, les petits détails, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Honnêtement, ce kit-là fait un gros travail. Puis jouer au centre, c'est même pas le même jeu. Là. C'est les meilleurs joueurs de ton équipe qui jouent au centre, puis c'est pas pour rien. Puis le kit, tu le mettrais à l'aile, puis il serait pas au même niveau. Là. Présentement, il y aurait pratiquement juste l'offensive à considérer, puis ouais. ça changerait toute sa game.
Puis on l'a vu un petit peu avec Dano, il a pas mal paru, dans le sens qu'offensivement, ça ferait la même affaire, mais en défensive, c'est beaucoup plus facile pour lui. Mm-hmm. Tu pars arrêter, t'as pas à te concentrer à jouer en deçà des hash marks, si on veut, des points. Fait que c'est beaucoup plus facile pour repartir en offensive. Puis je pense que présentement, il fait un bon travail. Il fait un travail honnête là, pour ce qu'on a besoin de sa part. Là.
OK. Puis si on va continuer, il y a sur la troisième ligne, on a Jonathan Drouin présentement. Ouais. Moi, encore une fois, je vois plein de belles choses de Jonathan Drouin. Souvent, il fait des super belles passes, des passes qu'on ne voit pas personne d'autre. Là, ça crée immédiatement de l'attaque, quelque chose qu'on a grandement besoin. Puis je vois encore beaucoup de hate sur Jonathan Drouin, des gens qui sont plus capables, qui le mettraient immédiatement dans les gradins. Puis je pense qu'il y a plein de joueurs qui mériteraient d'être dans les gradins avant lui. Là, puis, fait que si tu peux développer sur
Jonathan. En fait, en partant, c'est un Québécois. Fait que c'est toujours facile de passer sur les dos en premier. T'sais, au début de l'année, on s'était acharné sur Philippe Dano. On s'acharne sur Jonathan Drouin. Fait que je pense que c'est vraiment notre culture, on en veut plus. Moi, ce que j'ai de la misère avec Jonathan Drouin présentement, c'est en territoire restreint. Habituellement, il y a une force de se dégager des autres joueurs. Puis on dirait que dès qu'il se fait frapper, il meurt sur le bord de la bande. Il est prêt de fighter pour ressortir, pour pouvoir attaquer le filet. Puis c'est ce que je trouve que son langage corporel, si on veut, il a quand même l'air découragé. Au niveau offensif, il n'est pas capable de scorer. On l'a vu, il a manqué dans les deux derniers matchs, il a manqué des extrêmement belles chances. Puis on dirait que ça le décourage. Puis on dirait, oh, il se fait frapper. C'est fini. C'est ce que je trouve un petit peu plate parce que d'habitude, Jonathan Drouin, il sait que c'est pas le plus gros. Il va fighter pour ressortir, pour pouvoir aller se retourner, pour aller rapidement au filet. Présentement, je le vois pas faire ça.
Ouais, puis ce qui est un petit peu décevant, c'est sa performance sur le powerplay. Là, ouais. C'est un gars qui devrait dominer le powerplay. Puis on dirait que ses points viennent pas de là. Puis c'est comme tu dis, c'est ses batailles. Ouais. Surtout en powerplay, tu es supposé d'attirer un joueur, gagner t'es pas ta bataille, mais tu n'as même pas de bataille dans le fond.
Exact.
On dirait que c'est laborieux dans son cas. Souvent, il va retourner sur lui-même puis pour rien, puis se faire ramasser sur le bord de la bande, coller, on perd la rondelle, puis elle se ramasse à l'autre bout.
Exact. Puis c'est présentement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de sport en avantage numérique, là, parce qu'on parle d'avantage numérique, mais on réussit à rentrer, on finit par semi-s'installer. L'équipe adverse est souvent agressive sur le Canadien. On perd la rondelle, puis on n'est pas capable de la récupérer. Fait que ça fait vraiment mal à l'avantage numérique de cette façon-là.
Oui, je suis absolument d'accord. Si on continue de faire le tour de l'alignement, on a la quatrième ligne. On est rendu avec Stahl, Perry au centre. Pas au centre, excuse-moi, c'est Stahl qui joue au centre.
Ouais.
Sur la quatrième ligne, on est avec Lehkonen, exactement.
On a parlé un petit peu brièvement avec Stahl. Je pense vraiment qu'il faut réduire son nombre de minutes pour que quand il est sur la glace, il ait son énergie complète. Il y en a gros qui me parlait que Lehkonen devrait écoper. Là, ben, on l'a mis un petit peu de côté. Là, on s'acharne un petit peu plus sur Drouin et Stahl. Mais Lehkonen fait un très bon travail présentement. Son désavantage numérique, mm-hmm. Vous le regardez avec Philippe Dano, là, ils font un travail incroyable.
Ils
donnent des buts, mais souvent les buts qu'ils ont donnés, c'est souvent dans le bas de la zone. Donc c'est souvent plus le travail des défenseurs, on s'entend que c'est une unité de 4, là, mais les défenseurs, je trouve que c'est un peu plus laborieux en piqué. Puis Lehkonen et Dano font un très bon travail en désavantage numérique.
Le problème avec tout ça, c'est que c'est Evans qui cop. Puis on sait, avec l'avenue de Stahl, il y a eu une quarantaine. Evans a relevé son jeu d'un cran. Là. Il y a eu deux matchs avant l'avenue de Stahl où il a très bien joué. Ouais. Honnêtement, je dis bien joué, mais il a très bien joué. Là. Ouais. Fait que c'est un peu décevant de voir que c'est lui qui est tassé. C'est sûr qu'on va faire jouer Stahl. Il faut lui donner sa chance. Sauf que également, Evans mérite sa chance de son côté.
Oui, je suis entièrement d'accord. Puis je pense qu'on savait plus qui déplacer. Puis là, on dit, Stahl, c'est un centre. On va tasser le dernier centre sur la ligne. Puis c'est ce qui est arrivé.
Mais comment longtemps est-ce que le coach faut qu'il aille avec Stahl?
je pense que Duchamp, il est un petit peu pris dans une chaise, dans le sens que Marc Bergevin a amené Rick Staal pour donner de l'expérience puis une bonne quatrième ligne. Puis présentement, Staal ne donne pas ce qu'il donne. Donc, est-ce qu'il froisse un vétéran pour ramener Evans? Je pense que c'est présentement, c'est ça. Puis je pense que c'est sa première décision, c'était de l'enlever de l'avantage numérique. Puis en disant à Staal, il faut que tu m'en donnes un petit peu plus à 5 contre 5, parce que sinon, ta prochaine step, c'est dehors du line-up.
Oui, oui, c'est ça. Après que tu sois fini sur la carte, il n'y
a plus grand place.
C'est la Taxi Squad. Avant, c'était la galerie. Maintenant, c'est la Taxi Squad.
Exact.
Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en Estrie. Prolux, c'est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la TUC, sur les abords du réservoir Coin. La Pourvoirie à Chimac, c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison, pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, lapourvoirieachimac.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google.
Bon, Max, on a pas mal fait le tour du line-up. Je pense qu'individuellement, on peut voir que tous les joueurs ont un petit peu de misère. Là, il n'y a pas grand joueur qui a des rapports positifs. Mais les succès du Canadien, je veux dire, tous les joueurs individuellement, ils ont un petit peu de misère. Mais je te dirais que le Canadien, en tout, là, souvent, ça fait vraiment peur. Il y a des performances qui sont vraiment décevantes. Perdre contre Ottawa, là, je veux dire, je pense que ça fait une couple de fois qu'ils perdent. Là. Ouais. Je pense que le sentiment d'urgence au dernier match était là, aurait dû être là. C'est quoi, tu vois? Est-ce que c'est parce que c'est individuellement, les joueurs ont très bien joué ensemble au début de l'année, puis là, on dirait que ça ne marche plus. Est-ce que tu as une explication?
Je pense que c'est difficile. On a tassé Claude Julien en disant, bon, ben ça prend quelqu'un de nouveau, puis dire de quoi de nouveau. On a amené Dominique Duchamp, que je pense qu'il fait. Honnêtement, il faisait un bon travail avec Alex Burrows. Là, je pense que présentement, on ne sait plus quoi faire. Je pense vraiment que les groupes de leaders doivent se lever. Là. Chez Weber, Carey Price doivent dire « OK, les boys, c'est assez, puis on en replace ça. » Je pense que ça doit venir de la chambre, en fait. Là. On a Chez Weber qui est un capitaine avec une prestance. Bien, je pense que c'est à lui de dire « Boys, that's it. » Hein, on en repart ça, puis il nous reste quoi 14-15 matchs avant la fin de la saison. Puis on commence à être à la corde raide. Là, les Flames, ils commencent à nous suivre là, de pas mal proche.
Oui, puis même, je regardais là, les Flames, oui, mais faut les Flames, pour rattraper le Canadien, doivent pratiquement seulement perdre 2 matchs d'ici la fin. Mais si on regarde Vancouver, qui est 8 points en arrière avec 4 matchs en main, s'ils gagnent ces 4 matchs-là, sont égales au Canadien.
Ouais.
Le Canadien va avoir besoin de jouer pour pas mal plus que 500
exact.
Pour faire les séries. Ça regarde pas bien. Je suis très d'accord avec toi, le groupe de leadership, mais honnêtement, je pense que c'est ça la réponse. Sauf que c'était ça la réponse il y a une semaine, il y a deux semaines. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que le message de chez Weber passe plus? On a vu que justement ses performances descendent. Puis on s'entend, oui, il y a eu un combat récemment, mais il n'apporte plus grand-chose aux Canadiens. C'est dur de leader quand on n'est plus capable de leader par l'exemple.
Ouais. Puis je pense que ce qui fait le plus mal présentement, c'est l'absence de Brendan Gallagher. Parce que justement, tu l'as mentionné, l'exemple, ben lui, il n'a pas besoin de dire un mot. Je suis sûr qu'il en dit plusieurs, là, puis je suis sûr qu'il est très, très vocal dans la chambre. Mais je pense que ce qui fonctionne le plus, ben, c'est ses performances sur la glace. Peu importe s'il score des buts ou pas, Brendan Gallagher va être à 110%. Il va être là chaque match, puis chaque présence qu'il fait, puis ça paraît. Puis je pense que présentement, ben, son absence fait vraiment mal aux Canadiens. Là.
Bon, je suis vraiment d'accord. Brendan Gallagher, c'est le cœur et l'âme. C'est le prochain capitaine des Canadiens. J'espère plus rapidement que... Je commence à espérer plus rapidement que not. J'ai un saying que je crois vraiment. C'est en anglais, c'est « speed of the leader, speed of the pack ». Ça veut dire que le groupe ne peut pas aller plus vite que son leader.
Ouais.
Puis présentement, le leader, il va pas bien vite.
Non, il est en arrière.
Puis tu sais, le gars, je sais que c'est des professionnels, mais le gars, il fait 10 millions. Puis quand toi, t'es un défenseur ou un avant qui en fait 1, 2, 3, puis tu vois que le gars, ben, s'il prend 12,5% de ta masse salariale, puis il apporte absolument rien, est-ce que ça peut se retourner contre toi, contre l'équipe?
Possible, là, mais rendu là, je pense que si tu gagnes 1, 2 ou 3 millions, tu es un professionnel, c'est ton travail, c'est de te mettre sur la tâche, puis let's go. Là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que ça doit venir de chaque joueur, doit stepper up, puis ils vont s'en sortir en équipe. Ouais, ça a si bien été dans les 10 les premiers matchs, ça peut pas être aussi catastrophique que ça l'est en ce moment. Ça peut pas empirer. Il faut qu'il y ait une amélioration quelque part. Puis je pense que ça devient de chaque joueur qui va s'améliorer, puis ça va revenir en groupe, puis ça va se replacer. Là.
Parce que je veux pas continuer à m'acharner sur Shea Weber, mais on dirait, c'est comme je l'ai dit, le speed of the leader. C'est des humains.
Oui.
Fait que, tu sais, quand tu regardes le gars qui est être ton leader et qui n'est plus capable d'en donner, un moment donné, ça peut être décourageant aussi. Là, ouais. Tu sais, à ce prix-là, tu pourras avoir deux bons joueurs dans l'alignement, là, tu en as zéro.
Ouais.
Fait que, tu sais, ça, un moment donné, quand tu vois les... L'autre aspect que je peux voir pour le Canadien, c'est est-ce qu'ils se sont fait dire trop en début de saison comment ils sont bons? C'est-tu possible, ça?
C'est possible. Ça vient... C'est tout le temps quelque chose. Hein?
C'est la nature humaine, là, encore ouais. une fois. On spécule parce ouais. que c'est... Mais honnêtement, là, ils ont été premiers dans les power rankings de certains experts de Toronto, là, ouais. les experts de Montréal, ouais. De la Ligue au complet. Fait que, tu sais, un moment donné, des fois, tu te fais dire t'es trop bon. Puis, en plus du fait que... peut-être plus exactement aujourd'hui, mais il y a une couple de semaines, la position des Canadiens était quasiment assurée. Là. Ouais. Le top 4 était quand même assez clair dans la division. Puis c'est assez clair que le Canadien va finir quatrième. Alors, est-ce que le Canadien s'assit sur son avance et trop fait dire qu'il était bon?
C'est bien possible. Hein? C'est comme quand tu arrives après deux périodes puis tu mènes 2-0. C'est la pire avance au hockey. Mais je pense que c'est un petit peu le même principe qu'ils vivent présentement. Ils ont une avance, puis ils s'assoient dessus, puis ils sont prêts à aller chercher les matchs pour dire qu'ils assurent la quatrième place. T'sais, on recule de 3 semaines, on s'approchait de 2-3. Puis là, ben, on est 2 semaines, 3 semaines plus tard, puis là, on s'approche de plus 5-6.
Ouais, puis là, on regarde juste en arrière. Là, ouais. On ne regarde plus en avant. Là, on se défend, on n'attaque plus.
Exact. Pareil comme dans un match.
OK. Si on compte, juste pour mettre un petit peu plus le doigt sur le bobo, l'attaque en général ne fonctionne plus. On s'est fait blanchir 2 fois ou 3 derniers matchs. Est-ce que tu vois quelque chose en général de l'attaque qui ne fonctionne pas?
Ben, en fait, présentement, je trouve qu'on n'a plus de trafic en avant du filet. Les gardiens sont rendus tellement bons. Si vous regardez la plupart des buts qui sont marqués dans la Ligue nationale, ça va être en avantage numérique, là, vous allez me dire. Mais sinon, les buts à 5 contre 5 sont marqués quasiment dans le crease ou du moins dans l'enclave, là, t'sais. Dans le crease, là, dans le bleu du gardien, là, c'est des rebounds, c'est des joueurs qui sont devant le filet, c'est des rondelles déviées, c'est des retours de lancer. Puis je trouve que présentement, on n'a pas cet engagement-là de tout le monde. On les a une fois de temps en temps.
Mais Corey Perry.
T'sais, exact. Corey Perry est là tout le temps. Et que ce soit 5 contre 5, à 5 contre 4, 5 contre 3, 6 contre 5, il va tout le temps être là. C'est pas compliqué. Ouais, cherchez-les pas.
Gallagher, malheureusement, plus là.
Exactement. Josh Anderson qui était capable d'y aller. Mais là, je trouve qu'on dirait que oups, on y va plus aussi souvent. On n'est plus capable de ramasser les retours de lancer qu'on était capable d'avoir. Habituellement, la ligne à Tatar, Dano sont bons pour lancer souvent au filet, parce que Gallagher est avec eux, vous allez me dire. Mais ils vont lancer beaucoup au filet, ramasser beaucoup de retours, mais ils finissent par la mettre dedans, que ce soit Tatar ou que ce soit Gallagher. Mais les autres lignes, on ne voit plus ça. Hein, Drouin, c'est pas le gars qui va le plus souvent dans le trafic. Non, Suzuki, non. Présentement, on le voit plus non plus beaucoup dans le trafic. Fait que au moment qu'on se parle, ben, on a Toffoli. Puis on a Anderson qui score des buts parce que pourquoi? Ben ils sont dans le slot ou bien ils attaquent le filet. Hein? Anderson, il est très bon pour rentrer au filet avec son physique, mais il va chercher des fois une punition, des fois il va chercher un lancer au filet avec un retour. Tu sais, c'est vraiment à ça que je trouve qu'on manque d'engagement près du filet.
Ouais, je pense que je vais résumer ça. Les propos de Richard Martel. Tu ne payes pas le prix.
Ah, exact. Ben c'est ça pareil. Si t'es pas là, tu pourras pas marquer. Ouais. Un gardien, tu lui demanderas s'il y a un lancé sur le bord de la bande, c'est difficile. Là. Il n'a même pas besoin de bouger, il va se placer, il va l'arrêter.
Oui, exactement. Puis tu sais, la ligne bleue, il faut que ça soit dévié. Il faut que ouais. Le gardien regarde d'un côté la poque à passe parce que les exact. Gardiens sont trop gros. Il faut. Puis tu sais, c'est exactement. Là, moi, je le dis tout le temps en tant que défenseur, de la ligne bleue, là, s'il me voit arriver, je vois pas. C'est pas chez Weber à 106 000 à l'heure. Puis exact. Là, il est plus capable de le faire. Là, on dirait qu'il y a ouais. de la misère à prendre son château net.
Ouais.
Fait que c'est vraiment Petrie qui va lancer de là. Puis
tu sais, vous allez voir, là, les deux meilleurs défensivement pour prendre des lancers de la ligne bleue, c'est Petrie et Romanov. Pourquoi? Parce qu'ils prennent la rondelle rapidement sur le bord de la ligne bleue, vont l'allonger à reculons, un petit quick shot. Ou des fois, qui vont être exemple du côté opposé, vont pouvoir la diriger, deux, trois steps, on revient, on prend un petit lancé. On le sait qu'on ne scorera pas, mais on le sait qu'on va avoir soit un retour ou une déviation qui va créer une chance de marquer.
Oui, parce que justement, l'autre équipe, eux autres, ils payent le prix.
Ils vont les bloquer, les lancers.
Ils bloquent les lancers. Exactement. Fait que comme tu dis, il faut que le défenseur il se déplace, soit qu'il ramène la rondelle pour passer around, ou soit qu'il break puis il lance pour que l'avant passe tout droit. Mais c'est ça, justement. Fait que je pense que ça résume bien le segment de ce qui se passe avec le Canadien, c'est qu'il ne paye pas le prix.
Oui, je suis totalement d'accord.
Bon, ben, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que c'est facile à dire d'ici, puis je... Est-ce qu'il y a des solutions? Vas-y.
Ben, je pense que ça part des pratiques, ça devient une mentalité. Hein. Je pense que tout joueur d'hockey l'a déjà vécu. Là, on est prêt à scorer. Ben, le coach, qu'est-ce qu'il va te dire? Ben, c'est lance au filet, va chercher les retours, freine dans la face du gardien, tape ses pads, la rondelle, elle va finir par y aller. Mais si t'es pas là, tu peux pas scorer. Fait que moi, je pense que ça commence des pratiques. Au filet, va chercher des retours, vise les pads, va chercher les retours, puis après ça, ça va finir par y aller.
Ouais, c'est ça, get back to the basics. On revient à la base, là, puis on fait les bonnes choses, puis on sait qu'un moment donné, ça va rentrer. Mais c'est exactement ça. Je pense que c'est de faire les bonnes choses intensément, puis de payer le prix. Je pense que ça va être le nom de ce segment-là. Je vais le couper, puis je vais le mettre sur Facebook. Vous allez le voir passer. Tu payes pas le prix avec un Richard Martel, puis Patrick Roy qui l'imite. les solutions pour le Canadien, c'est ça a l'air anodin, on est assis ici, là, on dit de travailler plus fort, mais c'est qu'est-ce qui fait que les saisons sont longues, mais qu'est-ce qui apporte ça?
Ben, je pense que c'est de contrôler les temps de repos, les temps de pratique. Là, je pense que les Canadiens jouent encore quatre fois cette semaine dans l'Ouest, mais c'est vraiment là, de montrer les tapes. Hein, ils font beaucoup de vidéos quand ils sont en repos, mais comment on a marqué nos buts? Si vous regardez Tyler Toffoli, il ne score pas de la ligne bleue. Là. C'est pas lui qui a lancé à 100 000 à l'heure non plus, mais il se dirige au filet. Anderson, même principe. Gallagher, sur ses 14 buts, il doit en avoir 10 qui est en bas de 6 pieds du but. Montrer ces buts-là, montrer aux gars c'est quoi les. Comment c'est payant de se rendre près du filet. Puis je pense que c'est à force de le faire et de les encourager. Puis Alex Burrows, ben, c'est le même qui scorait les buts avec les deux Sedin.
Absolument.
Okay, je pense que c'est vrai, ça part de derrière le banc, puis que les joueurs le font, puis qu'on les encourage, puis que ça va payer.
Simplement. Ben, je suis super d'accord avec toi, Max. La question qui tue, est-ce que tu penses que le Canadien va le faire?
ça, c'est une autre question. Je l'espère, parce que si vous allez voir Mike Smith ce soir, si vous n'êtes pas proche du filet, vous ne scorez pas. C'est un gros gardien. Dans le fond de son filet, il va aller voir les rondelles. Donc, si tu n'es pas là pour le déranger, tu n'es pas là pour prendre des retours, tu ne scores pas de but contre Mike Smith.
Oui, je suis super d'accord. Puis le Canadien a l'air d'avoir plus de misère à la maison. Sur la route, ça va mieux pour eux autres. Je pense que le groupe a l'opportunité d'être ensemble. La saison a très bien commencé. Ça a très bien commencé sur la route. Je pense que le Canadien joue à peine pour 500 à la maison. On sait à la maison, ils sont plus scrutés. Les gars n'ont pas le droit de sortir de chez eux. La bulle, les affaires. Je pense que cette année, dans la Ligue nationale, c'est plus dur de jouer là, à la maison que sur la route. Les gars, ils peuvent aller au restaurant, souper le soir, puis tout. Puis je pense que le Canadien s'en va sur la route, puis c'est leur occasion de sauver leur saison. Là. C'est make or break avec trois affrontements contre les Flames.
Oui, exact. Puis je pense que on va même au-delà de ça. L'année passée aussi, c'était difficile à la maison. Je sais pas, c'est parce qu'on essaie trop de matcher les lignes, puis rendu à l'extérieur, ben on se dit, go les gars, faut tout le monde se donne, parce que à soir, ça se peut que ce soit Connor McDavid qui pogne Kéké, qui pogne Stahl. Ce sera pas toujours Dano, là, je vous le dis.
Mais avant, il y avait un avantage de la patinoire, mais on dirait à cette heure qu'il n'y a plus de fans. T'as ton changement, mais à part ça.
C'est tout.
Puis tu sais, à la maison, t'as, comme je disais, là, les restrictions du COVID sont plus difficiles. Les gars n'ont pas le droit de sortir de chez eux, au moins. Quand ils sont sur la route, ben, il y a trois repas par jour. Ils ont le droit de les prendre ensemble, les pratiques. Là, il y a un repas par jour avec les boys, puis après ça, tu t'en vas chez vous, puis tu n'as plus le droit. Là.
Alors ça, c'est certain, mais je pense que c'est le même pour tout le monde.
Oui, mais on la voit, la tendance aussi. Puis même dans les séries, l'équipe... les séries, c'était dans la bulle. Fait que je suis dans le champ complètement, mais on le voit depuis le début de la saison. C'est une tendance que les équipes sur la route font beaucoup mieux que dans le passé.
Ouais.
Bon, Max, on a fait le tour avec les Canadiens. Là. Ça va pas bien. J'en ai assez parlé. Mais on va faire le tour des autres sections. Je vais commencer avec la section Nord quand même. On a les Maple Leafs qui sont en première position, en suivi de Winnipeg, Edmonton, Montréal. On a Calgary qui est assez proche. Puis Vancouver qui a encore des chances avec plusieurs matchs en main. Il y a Ottawa qui joue quand même bien, mais qui sont en arrière. Comment tu penses que cette section-là va se terminer, les match-ups des séries que tu vois?
Présentement, ben là, Toronto, on a parlé juste en ronde, mais ils en ont perdu quelques-uns, mais je pense qu'ils vont finir premier. Je pense qu'avec Campbell et Rittich qui viennent d'acquérir, je pense qu'ils viennent de se stabiliser un petit peu en arrière. Je pense qu'ils vont terminer premier. Ce qui va être intéressant à revoir, c'est vraiment Edmonton, Winnipeg qui va finir 2 et 3. Puis je pense que le Canadien va finir 4e. Donc, les match-ups seraient Montréal, Toronto, puis Winnipeg, Edmonton. Là.
Je suis bien d'accord avec ça. Je pense que c'est comme ça que ça va se terminer aussi. Les Canadiens vont se faire chauffer, mais je pense pas que Vancouver va être capable de les rattraper. C'est une cédule incroyable qu'ils ont mis en avant d'eux autres. Là. C'est 19 en 20 quelques, me semble.
Exact.
30, là, mais,
ouais, c'est 19 plus en 30, je pense. Là. Ouais. Mais c'est exagéré. Là. C'est hors norme. Là.
Mais, ils veulent pas rallonger la saison de tout le monde. Puis là, tout le monde serait inactif pour une semaine à cause de ça. Ils pourraient peut-être rallonger juste la section nord. Je pense que ça va être à voir là, si les. Mais ils ont recédulé tous les matchs. Ouais. Hein. Je pense que leur plan, c'est vraiment de recéduler avec les télévisions. On sait qu'ils n'ont pas bien le choix. C'est des contrats de télévision. S'ils veulent pas en perdre, il faut tout qui est présente. Fait que je pense que ça va. Puis si on regarde si ça serait ça les match-ups selon toi, qui sortirait de cette section-là? Là?
Je pense que Toronto va sortir Montréal. Je pense que Toronto a trop une bonne offensive pour perdre 4 matchs contre les Canadiens. Après ça, Winnipeg et Edmonton, je pense que Winnipeg sortirait gagnant. Winnipeg a trop de qualité, puis Edmonton manque trop de choses pour pouvoir sortir Winnipeg. Puis après ça, ben, je serais vraiment intéressé de regarder Winnipeg-Toronto en finale nord.
Ça serait toute une scène.
Ouais,
je vais te demander de te mouiller.
Qui sort?
Ouais.
Je pense que Toronto va sortir à cause de leur offensive. Ils vont marquer trop de buts pour contenir les équipes, là, je pense.
Okay,
ça, c'est ma prédiction.
OK, parfait. Ben, je vais me mouiller. Je vais prendre Winnipeg qui va battre le Canadien.
Oh!
Juste parce que je ne suis pas capable. Mais on en parlait là, en ronde, comme tu disais. Mais Austin Matthews, toute une saison incroyable. Là, se dirige vers une soixantaine de buts d'une saison régulière normale. Pratiquement un but par match. Ça va être dur... Ça va être dur pour les Canadiens de le battre. Il va falloir qu'il paye le prix puis qu'il lui fasse payer le prix pour être capable de le battre.
Mais je n'aime pas Toronto, j'aime pas leur dire, mais je pense que leurs deux premières lignes sont trop dominantes.
Puis honnêtement, les deux premières lignes sont très dominantes, mais si tu regardes jusqu'à quatrième,
oui,
ils sont rendus avec Thornton puis Spezza.
Wayne Simmons
sur la quatrième ligne. Je pense qu'il y a un de leurs bons joueurs qui s'est blessé hier là, au genou. Mais pareil, là, c'était une équipe qui est leur troisième ligne. Score beaucoup contre la Canadienne, c'est Hyman, je pense. Tout le temps très difficile à jouer. On dirait qu'on n'est pas capable de matcher cette ligne-là. Elle domine tout le temps contre le Canadien. Fait que ça va être à voir. Je pense que si le Canadien pogne Toronto, ça va prendre... Ça va prendre du physique, des coups de Sherwood. Ça va prendre un match de 7-1 où on est capable de leur faire mal.
Ouais,
7-1 pour eux autres où on est capable de les battre.
Ça va prendre, exemple, un Price qui est en pleine possession de ses moyens.
Ah, pour les battre, ça prend 2 victoires signées Price.
Exact, c'est ça que j'allais dire. Ça prend 2 vols de Price, puis après ça, 2 victoires gagnées.
Une en prolongation plus tard, puis la 7e.
C'est ça, quelque chose de même.
Anything can happen in a 7th game.
C'est ça.
Bon, je pense que ça fait le tour de la section nord. On va y aller avec la section S qui est présentement dominée par les Capitals de Washington, suivi des Islanders de Pittsburgh, de Boston. Je pense que c'est un top 4 qui est assez clair, là, avec New York puis Philadelphie qui est un petit peu en arrière, mais qui ont des matchs de plus de jouer. Alors, ça va être difficile là, avec 2 matchs de moins puis 4-5 points en arrière.
Puis les Rangers n'attendaient pas à faire les séries. Puis les Flyers, depuis un mois, ça va tout simplement pas.
Oui, puis les Flyers, honnêtement, c'est 47 points. Puis il faudrait qu'ils rattrapent Boston à 56.
Exact.
2 matchs de moins à jouer. C'est pratiquement impossible. Fait qu'on peut se dire dans cette section-là qu'on va y aller avec Washington, New York Islanders, Pittsburgh puis Boston. Comment tu penses que ça va se terminer?
On met Washington contre les Bruins. Je pense que Washington va sortir gagnant. Je sais que les Bruins viennent de les manger complètement. Là, Vechkin a fini à moins 4, puis la ligne à Bergeron a 8 ou 9 points. Mais je pense que dans un ensemble, les Capitals ont une meilleure équipe. Puis je pense qu'avec l'acquisition d'Anthony Mantha, là, vient vraiment leur donner un bon push pour les playoffs.
Oui, je suis très d'accord. On va prendre une minute pour en parler. Anthony Mantha qui a 5 buts à ses 5 premiers matchs avec les Capitals. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir jouer dans cet uniforme-là?
Je l'ai vu brièvement. J'ai regardé des séquences parce que, bien évidemment, moi, c'est un joueur que j'ai toujours vraiment aimé à regarder. Là. C'est un gros bonhomme, encore une fois. Là. C'est un marqueur en plus.
Oui, un gars qui scorait 50 buts à Val-d'Or dans le temps qu'on aurait très aimé voir à Montréal.
Exact.
Malheureusement, cette année-là, le Canadien repêchait très tard. On n'avait pas réussi à descendre jusqu'au 22e rang, il me semble, qui s'est fait repêcher par Détroit. Ça Ça doit être une des années McCarron et ces affaires-là.
Exact.
Manta dans le même moule, sauf avec du talent.
Exact. Puis tu sais, je pense qu'il était un petit peu étouffé là, à Détroit. Là, ça allait tout simplement pas. Apparemment, avec Eisenman, ça fonctionnait pas. Puis vous, tu sais, il est parti, il a 5 buts en 5 matchs. Là, fait que,
c'est
un talent exceptionnel. Là.
On peut voir que Eisenman, c'est un très bon GM. Il l'a signé puis il l'a échangé. Mais tu sais, quand tu signes un gars puis tu l'échanges immédiatement, c'est parce que...
Et il a fait la même affaire avec Jonathan Drouin. Petite parenthèse.
Ouais, je voyais du monde qui faisait des rumeurs d'échange de Jonathan Drouin à Détroit. J'étais comme.
S'il a échangé de Tampa Bay, là.
C'est bien, c'est exactement ça. Moi aussi, j'étais. Fait qu'on a. Pour l'autre match-up, ce serait New York Islanders-Pittsburgh, un rematch de l'année dernière, je pense.
Ouais, exact. Puis moi, je vais prioriser les Islanders cette année. Je pense qu'ils ont une jeune équipe, puis ils ont été chercher un bon push avec leurs acquisitions qui ont été faites. Donc, je pense que les Islanders sont vraiment bien nantis. Avec Barzal qui lead à l'avant, là, je pense qu'ils vont passer en avant de Pittsburgh.
Oui, Pittsburgh va super bien aussi récemment, là, mené par Sidney Crosby, avec Kenny Malkin qui a été blessé, qui doit se replacer parce que c'est une équipe, mais ça doit être vraiment mené. C'est la ligne à Crosby avec Rust. Et Genzel?
Genzel, oui.
C'est des Philippe Dupuis, des gars qui sortent de nulle part, puis qui vont connaître Pascal Dupuis, qui vont connaître des carrières là, sur le dos de Sidney Crosby.
Mais Genzel, si vous le regardez jouer, c'est vraiment un marqueur. Là. Ouais. Il a vraiment un talent. Il va marquer 25-30 buts par année. C'est quasiment assez.
Puis Russ, il est rendu à une vingtaine, je pense.
Déjà. Exact. Là, Russ, je pense qu'il est vraiment... avantagé avec Crosby, mais Genzel, mettez-y n'importe quel passeur, puis il va scorer 25 buts. Là. C'est vraiment un talent là, brut de scoreur. Là.
Puis ça veut dire que ça nous laisserait les Islanders contre Washington dans la finale de cette section-là?
Ouais, et puis je pense que je passerais les Islanders. J'aime vraiment les Washington avec la question de Manta, c'est certain, mais je pense que Barry Trotz avec les Islanders va pouvoir contrer son ancien capitaine là, de Vechkin. Je pense qu'il va faire un bon travail avec Sorokin, puis Varlamov, là, les Islanders, je pense, sont bien partis. Ils vont pouvoir faire garder les deux goalers s'ils ont des deux matchs en deux jours, puis ils ne seront pas inquiets pour ça.
Oui, tu as mentionné les acquisitions des Islanders que tu aimais. Tu peux-tu les mentionner? Ça ne me revient pas en tête, honnêtement. Je vais faire oui, mais...
J'ai un blanc, honnêtement, mais c'est deux bonnes acquisitions. Là. C'est
des Devils.
Oui, exact. Paul Meury.
Oui, exactement.
Puis Zajac.
Oui, de très, très, très bonnes acquisitions. Excuse-moi.
Tu m'as mis sur le spot, là. Avec les trades, ouais. Fait que Paul Meury, Zajac.
On parle des leaders des Devils depuis 10 ans, là. Puis des gars que certains étaient prêts à échanger de Nick Suzuki pour Carl Paul Meury.
Ouais, non, exact. Puis Paul Meury, c'est un marqueur de but, là. Il est capable d'en scorer. Fait que je pense que ça va équilibrer l'attaque. Je pense que ça va leur donner plus d'options. Puis je pense que ça va leur donner un push pour l'avantage numérique aussi. Là.
Avec la perte d'Anders Lee qui avait absolument besoin de ça. Est-ce que c'est un gars, justement, encore une fois, suspect? Ouais. Est-ce que c'est possible qu'il revienne cette année, Anders Lee?
Je pense qu'il pourrait revenir, mais plus vers les séries les conventionnelles.
Ouais. Parfait. Fait qu'on, toi, tu irais avec les Islanders. C'est très, 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 très serré, honnêtement. On n'a pas mentionné l'avenue de Taylor Hall avec les Bruins.
Ouais, ben en fait, il a connu un bon début. Hein. Il a trois buts en quatre matchs, je pense, avec Boston. Puis il y en avait trois en 24 parties avec Buffalo. Là. Donc, je pense que c'est une belle acquisition pour les Bruins parce que ça va leur donner une deuxième ligne de... Une excellente deuxième ligne, en fait. Il se concentrait beaucoup sur une première ligne, mais ça va déloader un petit peu la deuxième. Puis je pense que Taylor Hall va être avantagé parce qu'il va affronter les deuxièmes lignes aussi.
C'est un gars qui bénéficie beaucoup de ne pas être dans le... Ça n'a pas l'air d'être un gars qui veut être...
Exact. Il ne veut pas le spotlight. Là. Il veut pouvoir jouer puis il veut avoir de la place. Puis je pense que c'est la place pour ça.
Oui, exactement. Honnêtement, j'essaie de voir un gagnant. Je peux voir les quatre équipes dans cette section-là revenir. Là. Ça va être des longues séries. Ça va être des séries difficiles. Ce qui peut me faire penser que l'équipe qui peut sortir de cette section-là va probablement pas gagner.
Ils vont
avoir joué deux très longues séries, d'après moi. C'est les Islanders, des fois, qui sortent des sweeps. Là, fait que, je veux pas, c'est toujours possible. C'est ça. Là. Ça va être des séries très difficiles. Ouais. Je peux voir les Bruins gagner, Penguins, Islanders, Washington.
C'est des équipes avec beaucoup d'expérience, à l'exception des Islanders.
Oui, mais t'as Barry Trotz. Exact. Honnêtement, là, ils n'ont pas de l'expérience d'avoir gagné, mais ils ont l'expérience d'avoir fait deux rondes les deux dernières années.
Exact.
C'est de l'expérience.
Ça. C'est de l'expérience, puis c'est vraiment une équipe qui est vraiment belle à regarder. Là. Si vous regardez les Islanders, là, maintenant on se dit ils s'en vont, c'est cette équipe-là, mais ils se sont vraiment bien placés depuis 3 ans. Là.
Oui, excellent. Fait que ça fait pas mal le tour de cette section-là. Juste pour le dire de se mouiller, je vais prendre Washington. Je suis un fan d'Ovechkin qui, encore une fois, continue sur sa lancée. C'est remis à scorer.
Ouais.
Le gars a eu un début de saison très difficile. Puis là, honnêtement, score un pace de pratiquement un but par match. Je suis tellement déçu que ce gars-là a manqué cette année. Ça va avoir été une 15-16 game. Puis l'année passée, encore 15 games. C'est ce qu'il peut faire qu'il rattrapera peut-être pas Wayne au début. En plus des saisons de lockout, là, ouais. Qu'il ne rattrapera pas, mais un gars qui est très intéressant à voir jouer. J'aimerais bien ça le voir en jouer une deuxième, puis en gagner une deuxième. Fait que je vais y aller avec eux autres, mais honnêtement, c'est vraiment gagé pas sur ce que je viens de dire.
Non,
parce
ouais,
que
exact.
N'importe quelle de ces quatre équipes-là pourrait être très bon. On va passer à la section centrale. En ce moment, il y a les trois équipes de tête là, qui sont en dedans de 2 points,
ouais.
Avec des matchs différents à jouer. Là, on peut dire qu'ils sont égales. La Caroline, Floride, Tampa Bay. Ensuite, on a Nashville, Chicago, Dallas qui se battent pour la dernière place. Puis après ça, on a Columbus puis Détroit qui ont été vendeurs à la date limite, ouais. Des transactions. Je pense que c'était clair de leur côté. On va y aller avec les trois premières équipes de cette section-là. Laquelle que tu vois finir dans le premier?
Ça, c'est une bonne question. Là. Je pense que Tampa Bay va finir premier parce que ils ont trop une équipe diversifiée, balancée, que ce soit l'attaque, la défensive, le gardien. Je pense qu'ils sont trop équipés, là, si on veut, là, pour ne pas finir premier. Puis, mais je pense que ça va être des bonnes séries parce que j'aime bien la Floride présentement.
C'est ça, tu dis qu'ils sont bien balancés, la Floride. Tu dis qu'ils,
ouais.
sont bons dans les buts. On peut parler,
ouais.
de la défensive.
Ouais.
La Floride, ça va très bien cette
exact.
Année.
Non, c'est vraiment une belle équipe. Là. Je pense qu'Huberto Barkov lead avec Trocheck qui marque beaucoup de buts. Tu sais, Bobrovski, ben, maintenant on dit pourquoi il gagne 10 millions, il n'arrête plus une puck. Mais là, si vous le regardez, lui puis Drager, je ne sais pas exactement comment on dit son nom, et il arrête les rondelles aussi. Là, fait que sont vraiment le fun à regarder là, cette
là,
année.
Encore une fois, on parlait d'équipe bien balancée, les Hurricanes, la Caroline.
Ouais. Les Hurricanes, on dirait qu'on n'en parle jamais, mais ils sont toujours là.
Défensive, incroyable. Leur tendon d'Achille, c'est leur carte. Gardien de vue,
ouais.
ça montre à quel point ils sont bons à la défensive puis à l'attaque.
Oui, exact. Puis je pense que c'est l'équipe, la défensive, qui est la plus intéressante pour moi. Là.
Ouais, ouais,
ça va être eux avec Tampa Bay, là, parce que Edmund lead ce groupe-là. Là, mais,
ouais, Edmund, surtout dans la série, où tu peux le faire jouer 30 minutes. Là,
ça le dérange pas.
Oui, puis qu'est-ce que tu veux faire? Là? Ça shut down tes deux premières lignes, là, pratiquement.
Exact. Ouais.
Fait que, on va y aller pour les... Présentement, c'est Nashville avec 49 points. On a Chicago 2 points derrière avec un match en main. Puis on a Dallas 3 points derrière, mais 3 matchs en main. Dallas qui fait un retour. On en avait parlé, je ne sais pas si c'est au dernier podcast,
ouais.
Une équipe qui décevait. Radulov terminé pour la saison. Ben Bishop terminé pour la saison.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a des gars qui font le travail à ce niveau-là. Laquelle de ces trois équipes-là, selon toi, va aller chercher le quatrième rang?
Moi, je pense que Chicago va aller chercher Lankinen, Patrick Kane et ses acolytes. Là, je vais les appeler comme ça, là, toutes les Young Guns. Là. Je pense que Chicago va finir à aller chercher juste à la fin. Là. Ce serait mon guess.
Je vais y aller pour Nashville.
Ouais.
C'est une équipe à maturité qui ne peut pas se permettre de ne pas faire les séries avec le line-up qu'ils ont. Et qui va très bien, là,
ouais.
qui était dans le fond du classement. Puis on va se le dire, là, peu importe l'équipe qui finit quatrième, vont perdre dans la première ronde.
Yeah, les bonnes chances.
Fait que ça nous donnerait, selon toi, Tampa Bay, Nashville, puis après ça, Floride, Caroline.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ça dans les séries?
Tampa va sortir, on l'a mentionné, il va passer la dernière équipe. Là. Après ça, je pense que la Floride va gagner contre la Caroline. Ce serait toute la Floride, là, Tampa, Floride, puis je pense que Tampa Bay va sortir la Floride dans une longue série. Ce serait mon guess.
Oui, excellent. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut gager contre Tampa Bay. On les regardait jouer tantôt, Braden Point, encore spectaculaire. Une équipe qui est loadée, continue de ramener des jeunes qu'on n'a pas entendus, rentre dans le line-up.
Puis ça
ils
va.
Ont l'air des. Cédric Paquette, là, il n'est pas parti. Ils en ont sorti un nouveau Barré-Boulet.
Ouais. Palat qui est encore dominant, Kucherov qui va revenir. Stamkos est parti, mais Kucherov revient. T'sais.
C'est ce qui va faire peur. Là, tu m'apprends que Stamkos est parti. C'est longtemps?
Ben, il s'était blessé. J'ai pas eu de nouvelles, mais il était blessé tout récemment. Là. Il n'était pas dans les derniers matchs. Là.
OK. Fait que ça va être à regarder, mais ils l'ont prouvé l'année dernière qu'ils n'ont pas besoin de lui pour gagner.
Exact.
Fait que je pense que je suis pas mal d'accord avec toi, mais cette série-là, qu'on l'a dit, là, la première ronde, il va définitivement avoir une série très intéressante dans cette section-là. Si on passe à l'Ouest, il y a le Colorado qui était mon équipe favorite, qui a remonté la pente, qui va très bien présentement. Vegas, qui est clairement là, le top 2 dans cette, dans cette section-là. On a Minnesota qui surprend énormément cette année. Ensuite, on a Arizona présentement, là, mais ils ont un point d'avance, mais deux games de plus de jouer que Saint-Louis qui devrait ravir le troisième spot. Il y a les Sharks qui sont encore en vie, là, juste quatre points derrière. Ensuite, les deux autres équipes, là, Los Angeles et Anaheim, qui ont été vendeurs à la date limite des transactions, fait qu'ils sont pratiquement éliminés. Je pense que c'est assez clair dans cette section-là. Voilà, y aller pour le dernier spot entre Arizona, Saint-Louis puis les Sharks.
Je pense que Saint-Louis va aller chercher l'expérience, qualité de l'équipe en soi. Là. Je pense que Saint-Louis va arriver la dernière position. Là.
Excellent. Fait que, d'après moi, le Minnesota va finir troisième. Ils ont quand même plusieurs points derrière Vegas. Est-ce que tu as l'occasion de les voir jouer un petit peu? C'est sûr, c'est tout le temps des games qui sont tard. Ouais.
Pas beaucoup. Par contre, je regarde les highlights, c'est sûr. Kaprizov, il y a une saison incroyable. Puis ils ont un bon noyau de jeunes joueurs aussi là, qui vont être vraiment intéressants. Belguérin a fait un bon travail là, au Minnesota, c'est certain. Là.
Puis encore une fois, c'est un gardien de but inconnu qui fait le travail là.
Ouais.
On va espérer. Ça laisse beaucoup d'incertitudes pour les séries. Souvent, l'inexpérience fait mal. Un gardien peut être très, très bon durant toute l'année. Puis durant les séries, mais ça, plus de pression, plus de trafic, plus de tout.
Puis peu importe qui vont affronter, ça va être difficile parce qu'ils vont affronter soit Colorado, soit Vegas. Là, donc, je leur donne pas grand-chance de gagner, malheureusement.
Ouais, c'est ça. Colorado-Vegas, qui tu penses qui va finir premier, selon toi?
Je pense que Colorado va finir premier. McKinnon, Rantanen, là, ils ont explosé là, dernièrement.
Tout
flou, là.
Tout flou.
C'est 1, 2, 3 points par match. Là.
Ouais.
Donc, je pense qu'ils vont finir en avant de Vegas. Mais Vegas qui a une très bonne saison encore avec Mark Stone, Max Pacioretty en offensive. Là.
Ouais, puis Alex Pretrangelo qu'on disait à la dernière game, là, qui, au dernier podcast. Qui...
Fleury, Lennart, Alenti, comme gardiens qui sont capables de se partager, puis que les deux gagnent, là, c'est pas un problème. Là.
Fait que si on s'entend qu'en deuxième ronde, ça va être Colorado-Vegas.
Ouais.
Non, enfin, on s'entend pas là-dessus. Saint-Louis n'est pas nécessairement battu. Là.
Mais, moi,
mais s'ils finissent quatrième, puis ils vont pogner Colorado, c'est très, 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 très difficile.
Là. Ça va être difficile, mais je pense que Colorado va passer au travers.
Ouais, je suis d'accord. Fait que si on s'entend que ça va être Colorado-Vegas en deuxième ronde, qu'est-ce que tu vois de...
Je vais prioriser Colorado. Je pense qu'ils ont plus de punch que Vegas. Là. Mais ça va être une bonne série, c'est certain. Là.
Ouais, c'est sûr. Que quand tu peux faire jouer Alex Pietrangelo 30 minutes, tu sais, là, présentement, ils doivent le sauvegarder à 20-22 minutes par game. Quand ils vont être capables d'y donner plus de temps de glace, c'est sûr que c'est une équipe qui va se rapprocher. En fait, ils sont égales. Là. C'est juste que le Colorado a un match de moins de jouer. Fait que j'apprécie vraiment le Colorado. J'espère les voir passer à la prochaine étape puis les voir jouer très longtemps cette année dans les séries comparativement à la bulle l'année dernière où ce que ça n'a pas duré très, très longtemps. Fait que ça fait pas mal le tour des équipes, des sections, je veux dire. Fait que selon toi, est-ce que tu as un favorite pour la course à la Coupe Stanley là, dans ce qu'on a vu?
Ben, je pense que ça va être difficile parce que c'est présentement la grosse différence cette année, c'est que tu affrontes toujours les mêmes équipes. Hein. Donc, tu arrives en série et tu es affronté 8, 9, 10 fois. Donc, les équipes ça, vont s'ajuster beaucoup plus. Donc, je pense que ça rentre beaucoup en ligne de compte cette année comparativement à l'année dernière. Que tu affrontes, au début dans ta division, mais qu'après ça, tu te sépares, que tu as affronté 4-5 fois, mais là, tu es affronté le double. Donc là, tu as beaucoup plus de matchs à regarder, tu as beaucoup plus de façons de voir, t'es affronté à home away. Je pense que ça va rentrer beaucoup dans le coaching, va avoir un gros, gros, gros impact là, en série cette année comparativement peut-être aux années antérieures. Là.
OK, parfait. Puis pour un favori pour la Coupe?
Je pense que je suis du même avis que toi, j'aime bien le Colorado là, présentement. Là.
Ouais,
offensive, défensive, gardien, ça va super bien. Puis sont hot présentement à... T'sais, un mois des sirous à peu près. Je pense vraiment que c'est mon pic présentement.
Ça va être très intéressant. Puis c'est dur à choisir là, en avance parce que justement, on a juste quatre choix. Puis ça se peut qu'il y en ait zéro des quatre qui soient là.
Oui, exact.
Fait que c'est dur à l'avance, mais je pense que Colorado, très bonne équipe. Tu peux pas même gager contre le Lightning.
Exact.
Après ça, on l'a dit, celui-là qui va sortir de la division Est. Ça va avoir c'est des grosses équipes, ils vont avoir de l'expérience. Peut-être qu'ils vont avoir un momentum, peut-être qu'ils vont être beat up, mais peut-être qu'ils vont avoir un momentum.
Ça va dépendre du match-up en sortant aussi. Tu sais, Division Nord, je ne sais pas si c'est déjà prédéfini qui affronte qui. Là. Ça, je ne suis pas au courant encore.
Sûrement
là.
Pas. D'après moi, ça va y aller les moins de points contre le plus de points.
Exact. Là. Fait que ça aussi, ça va avoir un impact aussi. Là.
Mais c'est ça. Après ça, qu'est-ce qui va se passer avec l'équipe canadienne?
Ouais.
Est-ce qu'ils vont avoir le droit de jouer leur partie home à la maison?
Je pense que ça va être une bulle qui va être exposée aux États-Unis, malheureusement pour eux. Là.
Juste pour l'équipe canadienne.
Oui, juste pour l'équipe canadienne, je crois.
Fait que c'est un désavantage.
C'est un désavantage.
Mais au moins, ils vont peut-être pouvoir avoir des fans.
Oui, exact. Il y a des points positifs pour la Ligue nationale.
Ouais, c'est vrai. Puis, comme tu dis, pour faire de l'argent, ils vont être prêts à faire ce qu'il faut. Est-ce qu'ils pourraient pas relocaliser toutes les séries ou juste à partir de la...
En fait, tu sais, comme la division canadienne vont pouvoir se jouer à l'intérieur, puis après ça, je pense qu'ils vont se diriger vers les États-Unis pour faire leur demi-finale, si on veut, puis finale s'ils passent. Donc, je pense que c'est l'objectif de la Ligue nationale. C'est beaucoup plus facile pour eux comme gestion là, d'avoir un aréna, puis... héberger une équipe à une hôtel X. Là.
Ouais.
Surtout si on peut aller chercher des fans, aller chercher des revenus, je pense que c'est sûr que la Ligue nationale regarde ça tout de près. Là.
Max, on a assez parlé de la Ligue nationale. Il y a une chronique qui me tient quand même assez à cœur qu'on a débuté au dernier podcast. C'est au niveau du développement des jeunes au hockey. Tu avais apporté un super bon point qui est de les faire jouer plusieurs sports. Ça les aide à développer leurs habiletés physiques. Je pense que je vais te laisser la parole parce qu'on n'avait pas fini ce point-là. Puis est-ce que tu as d'autres choses de, en général qui vont faire, qui vont aider à développer un jeune au hockey?
Oui, bien en fait, tout court, comme on a parlé, c'est vraiment les habiletés motrices de base. Je pense vraiment que ça commence par là. Je pense qu'un jeune qui se spécialise trop tôt, puis il y a vraiment là, des études scientifiques qui sont basées là-dessus, c'est des muscles qui se spécialisent, qui se spécifient, puis on va souvent créer des blessures répétitive et à long terme, puis qu'après ça, les joueurs ne seront pas capables de maintenir cette cadence-là pendant plusieurs années. Donc, moi, je pense que, justement, d'aller jouer au soccer, au baseball, au golf et au hockey, au football, ben, tu vas développer des muscles de toutes sortes, puis tu ne travailleras pas toujours les mêmes muscles, ce qui va faire en sorte que ton corps est mieux adapté, plus prêt pour n'importe quoi. Puis rendu à 12-13 ans, là, on pourra spécifier, mais ton corps va se spécialiser, il va être plus apte à recevoir toutes les charges de travail que tu vas lui donner, puis il va être beaucoup plus en forme là, pour performer à un haut niveau. Là.
Ouais, je suis tellement... ça fait tellement de sens, parce que les blessures, ça apporte un gros rôle dans... si les enfants aiment ça, parce que si tu te blesses tout le temps, ou si tu as une blessure majeure à un moment donné, soit tu ne pourras plus. Fait que ça fait que le jeune ne peut pas se développer. Tu peux pas commencer, dans le fond.
Ouais.
Vas-y.
Ça va même au niveau mental. Là, souvent, il y a des athlètes qui arrivent dans la Ligue nationale, puis finalement, ils font pas la Ligue nationale parce qu'ils sont tannés de jouer au hockey. Pourquoi? Parce que à partir de 3 ans, j'ai commencé à patiner, j'ai commencé à jouer au hockey, puis c'était du hockey 12 mois par année, puis c'était du hockey 8 heures par jour. Mais dans une vie normale, tu ne fais pas juste ça. Tu sais, tu as besoin de trouver des passe-temps, tu as besoin de te trouver autre chose, tu as besoin de te débarquer de la glace une fois de temps en temps pour te concentrer sur autre chose, pour que quand tu reviennes au hockey, tu es concentré. Si tu as juste le hockey en tête, c'est bien beau, puis c'est bien de l'amour, là. Puis moi, c'est quelque chose que je trippe bien raide. Mais j'étais capable de faire autre chose. J'étais capable de sortir la fin de semaine, aller jouer au tennis avec mes chums la fin de semaine l'été. Je suis capable de faire autre chose, puis je l'apprécie. Puis quand je reviens au hockey, ben, j'ai encore plus d'amour pour ce sport parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là.
Puis exactement. Puis c'est toi qui as choisi le hockey.
Exact.
C'est pas dans ça que tu as été poussé ou peu importe parce que quelqu'un pensait. C'est vraiment, tu as le choix. Puis éventuellement, toi, tu décides. Puis ça, c'est incroyable comme. Parce que comme tu dis, d'être poussé, un moment donné, si t'aimes plus ça, t'aimes plus ça.
Exact.
Fait que c'est une très bonne manière de décider parce que c'est ça, faut pas pousser. Justement, là, on parle de hockey, mais ça se peut que justement, tu vas développer dans n'importe quoi d'autre que du hockey, ouais. Justement, parce que c'est ça que tu aimes. Puis c'est ça le plus important. Puis tant mieux, si la chose que tu aimes le plus, c'est le hockey, bien, c'est ça que ça prend justement pour être capable de développer. Fait que je pense que c'est ça le point.
Oui, puis vous allez voir, je prends comme exemple Aaron Judge au baseball. Je ne sais pas s'il y en a qui sont des fans de baseball, mais qui est un des Yankees de New York, c'est pas mon équipe. Là, vous voyez sur ma casquette, je suis un fan des Red Sox. Mais il a pris la décision de jouer au baseball, puis jouer au basket et au football. Au niveau universitaire. Donc, il a fait le choix d'aller au baseball, même s'il appréciait les deux autres sports autant. Il savait qu'au baseball, c'est là qu'il y avait le plus de chances de performer à un haut niveau pendant plusieurs années. Puis, il a fait le choix, puis je pense qu'il a fait un bon choix. Là. C'est un excellent candidat. Mais il y a plusieurs athlètes que, si vous regardez leur passé, ils ont fait plusieurs autres sports de haut niveau. Je sais que c'est une pratique courante aux États-Unis. Là, ils vont faire 2-3 sports pendant leur année scolaire. Pourquoi? Ben, c'est de développer d'autres choses, développer d'autres sports que juste de faire de la spécialisation hockey, exemple, en entraînement. Puis après ça, ben, hockey, une fois que la saison elle arrive, ils vont aller faire du sport au lieu de juste de l'entraînement. Ça va travailler tes muscles, ça va travailler ton mental, ça va travailler plein de choses. Puis je pense que ça va être très, très bénéfique là, pour quand tu vas arriver à ton sport que tu finis par choisir là, éventuellement.
Tu sais, honnêtement, il y a assez d'heures d'une semaine. Là. Tu peux pas jouer au hockey 8 heures par jour, mais tu peux jouer au hockey le matin, tu peux jouer au football l'après-midi, au soccer, au baseball. Ça permet d'en vouloir plus puis d'avoir plus d'opportunités.
Exact. Puis je pense que c'est justement c'est ces athlètes-là qui font wow, tu sais, il est capable de faire tout. Là. Si vous regardez, il y a des joueurs de hockey, ben, ils vont faire souvent leur warm-up, ils vont pratiquer au soccer. Mais ils ont joué avec des ballons longtemps, ces gars-là. Là. Ils sont pas juste des joueurs de hockey dans l'âme. Là. Il y en a qui vont être capables de dribbler pendant 150 fois avec un ballon de soccer. Mais c'est des aptitudes et des habiletés qui ont été cherchées, pas avec le hockey, avec autre chose qui est connexe au hockey possiblement, mais qui n'était pas leur spécialisation, dans le fond.
Parfait, j'aime bien ça. Si on parle d'un enfant qui aime le hockey, fait que en tant que parent, tu veux l'aider à devenir ouais. meilleur au hockey. C'est quoi tu l'inscris, c'est la première chose. Ouais. Tu l'apportes, tu le supportes. Est-ce qu'au début, c'est vraiment de le laisser aller? Est-ce que tu as des petites choses que tu peux faire?
Oui, ben en fait, moi, je suis jeune père, comme tu le sais, mais moi, c'est sûr que je vais l'encourager dans tout ce qu'il veut faire. C'est sûr que moi, présentement, ben, à la maison, j'ai pas juste des bâtons de hockey. J'ai des bâtons de hockey, j'ai des bâtons de golf, j'ai des ballons de soccer, j'ai des ballons de football. Ben, j'ai vraiment tout. Je le laisse choisir. C'est pas moi qui lui donne son bâton de hockey. Ça va être lui qui va choisir. Puis après ça, il fera ce qu'il voudra. Là, fait que moi, je pense vraiment que c'est de le laisser aller, de le laisser choisir. Quand il va pouvoir me le vocaliser, après ça, on va pouvoir l'inscrire dans ce qu'il veut. Tu veux faire quoi, mon petit loup? Parfait, tu veux jouer au hockey, tu veux jouer au baseball, tu veux jouer au soccer, on va t'inscrire dans ça. Mais la fin de semaine, on va pratiquer de temps en temps, mais on va aussi faire autre chose. Tu veux jouer au soccer, pas de trouble. Mais on va aussi aller jouer au baseball, puis on va aussi aller jouer au tennis. C'est de trouver d'autres choses, puis peut-être qu'après un an ou deux, il va peut-être vouloir changer de sport. Peut-être qu'il va vouloir dire non, je reste avec ça. Mais au moins de le faire expérimenter différentes choses.
Ouais. Mais OK, parfait. J'aime ça. Mais un coup qu'il a décidé, là, ouais. je veux jouer au hockey. Est-ce que tu fais juste le laisser aller, le regarder pour les premiers, ou est-ce que tu es déjà là? Moi, j'ai joué au hockey 20 ans de temps. Là, j'ai des petits. Ma petite fille, j'essaye le plus possible de la laisser jouer, mais il y a tout le temps. Je pourrais donner des informations pendant des heures et des heures et des heures. C'est fait qu'il y a où la balance? Au début, on commence avec rien, puis après ça.
Ben moi, je pense que oui, au début, c'est d'y aller avec rien, puis après ça, ben, il va te le demander. Hey, père, est-ce qu'on va pratiquer? Est-ce qu'on peut aller faire ça? Moi, mon père, il n'avait pas besoin de me demander est-ce qu'on va. T'attends-tu à la patinoire, mon gars? Non. Hey, père, on va à la patinoire. Parfait, puis c'est là qu'il va pouvoir te donner ou que tu vas pouvoir lui donner de l'enseignement supplémentaire. C'est lui qui veut l'apprendre, c'est lui qui veut l'engendrer, c'est lui qui veut vraiment le reprendre, cette information-là. Puis c'est là que tu vas pouvoir vocaliser tes informations puis tes connaissances. Puis après ça, ben ça va pouvoir devenir de d'autres personnes parce qu'il va faire des camps d'entraînement, c'est vraiment plus tard, là. Vraiment pas plus jeune. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment comme ça que moi, je vais l'apporter, là, puis que je pense que c'est la base, là.
Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'étais avec ma petite fille, on était en début, elle commence à apprendre à patiner. Quand j'y vais, tu sais, on va patiner une heure, puis tu sais, je pourrais passer, essaye-ci, essaye-ça, essaye-ci, mais c'est vraiment peut-être une fois par fois qu'on va patiner, là, ah, ben peut-être que tu pourrais essayer ici, puis je prends peut-être une minute pour y expliquer quelque chose, mais tu sais, je veux vraiment pas. Parce que souvent, elle avait 3 ans, là, elle vient juste d'avoir 4 ans, mais tu sais, essaye, fais ci, fais ça, c'est à bloc, non, je suis pas capable, ou peu importe. Puis là, moi, la première fois que j'étais allé avec, justement, il y avait un coach là, la première fois, c'était une pratique de hockey. Puis je l'ai vu, il fallait vraiment qu'elle fasse son affaire, ou sinon elle était sur le bord de pleurer.
Puis je pense que c'est normal, puis ça va aussi dépendre des enfants. Là. Mm-hmm. Mais je pense que c'est totalement normal dans le sens que j'ai enseigné en éducation physique, puis un enfant de 4 ans, tu lui dis pas, fais ça. Tu lui dis, tu veux voir le résultat, puis tu veux qu'il trouve le processus comment le faire. Donc, tu vas lui montrer des solutions, mais tu lui dis pas quoi faire. C'est vraiment lui qui va l'apprendre puis qui va l'acquérir de sa façon pour ensuite l'améliorer. Moi, je pense que c'est vraiment de là, parce que c'est les habiletés motrices de base que je te parle. Mais je pense que si on y va avec global, puis après ça, avec la motricité fine, bien, je pense que c'est des affaires de même qui vont vraiment l'aider. Regarde, tu vois-tu lui ce qu'il fait? Lui, il va le maîtriser d'une façon différente. Son processus d'information qu'il va recevoir va être différent que toi. Puis après ça, ben, cette personne-là ou l'enfant en soi va pouvoir l'essayer, puis décortiquer, puis le faire de sa façon, puis trouver des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas.
Ah, parce que c'est fou, c'est des éponges, les exact. Enfants. Puis c'est, tu peux y en donner beaucoup, puis on dirait que si tu en donnes trop, elle absorbe. Fait que c'est bien d'y aller un petit peu à la fois.
Exact.
Puis d'observer, de la laisser faire les erreurs, de le répéter peut-être. Fait que La première affaire, c'est de les inscrire. À quel âge tu penses qu'on peut commencer à plus spécifier? Toi qui travailles avec plusieurs âges d'enfants, puis moi j'en ai juste de 4 ans, honnêtement.
Ouais.
Fait à quel âge que si tu peux environ?
Oui, ben en fait, ça va vraiment dépendre de ce que l'enfant veut, ce que le parent décide de faire aussi. Moi, je prends beaucoup de faire plusieurs sports.
Absolument.
On l'inscrit au hockey, parfait, mais la fin de semaine, on va peut-être aller faire du ski, on va peut-être aller faire ci, on va peut-être aller faire ça. Ça va l'engager dans d'autres choses quand même. Pour la spécialisation, pour dire entraînement, puis qu'on fait du hockey vraiment tous les jours, même je pense que c'est vraiment plus aux alentours de 13 ans. C'est là qu'on va spécialiser parce que le corps humain va être plus prêt. Hein, on va tomber en adolescence, puis là, on va pouvoir être prêt à prendre des charges supplémentaires, là, que ce soit au niveau du gymnase ou au niveau entraînement là, sans poids. Là. Mais avant ça, je pense que ce serait vraiment là, de l'engager. On peut faire des pratiques quand même, des spécialisations, mais je n'irais pas au niveau spécifique d'entraînement ou de choses spécifiques à ce point-là.
Mais j'ai une petite patinoire en avant chez nous. Ma fille, elle adore ça y aller. Pour l'instant, elle fait juste patiner. Ouais. Elle touche la poque, elle s'assit.
C'est
à quel point, à un moment donné, je lui demande, là, ben, essaye de faire un pivot ou essaye de...
Mais ça, je pense que
ça y va avec ce que le coach, tu sais, un moment donné, il va y avoir des coachs qui vont demander de faire des choses, puis moi, il va falloir que j'appuie ce que le coach leur apprend à ce moment-là.
Ouais. Mais ça, à partir du mag, ils vont commencer à avoir des habiletés X. Donc, on va parler patinage avant, patinage à reculons, croisement. Mais c'est des choses après ça qu'on est capable de reprendre à la maison sans dire hey, ton croisement, il n'est pas correct. Mais c'est de montrer des façons d'améliorer la technique.
La placer dans des situations où ce qui a fait des croisements.
Exact. Totalement.
On joue un petit jeu, on fait ci. Moi, je regarde des croisements.
Exact. Puis tout avec les enfants fonctionne sous forme de jeu. Tu veux leur faire pratiquer des sauts, joue ballon chasseur sur une patinoire avec eux. Ils vont sauter, ils vont plonger. Qu'est-ce qu'on pratique? Il se relève, il évite, il se déplace. C'est des choses, des habiletés que tu fais « Hein? » Mais oui, c'est vrai, c'est ça qu'on pratique. Tu veux pratiquer la vitesse? Joue un jeu de tag avec ton enfant pendant 5 minutes. Hein? C'est des jeux que tu peux faire qui sont super simples, puis tu n'as pas de questionner. Tu veux pratiquer des virages brusques. Mets deux cônes, puis en touchant le cône, tu mets une petite balle sur le cône. En se tournant, il doit essayer d'attraper la balle. Tu sais, c'est des choses vraiment sous forme de jeu que tu vas pouvoir aller chercher. Puis que l'enfant, il va dire « Hey, c'est donc bel fun, papa, ce qu'on a fait. »
On a joué un jeu. Les autres, ils ont pas développé le hockey. Là.
Exact.
On a joué un jeu.
Ils ont joué un jeu, puis toi, tu les as fait pratiquer quelque chose qui était important pour toi selon son niveau d'âge, puis ce qu'il est supposé de faire, dans le fond. Là.
Parfait. J'adore ça, Max. C'est le genre de petites affaires que je vais aller chercher avec cette chronique-là. Ma petite fille, je veux qu'elle joue. Pas que je veux, mais elle aime ça, je le vois déjà. Puis moi, personnellement, je suis tout le temps sur une glace, fait que c'est souvent elle a l'opportunité avec. Fait que si elle veut venir, mais tu sais, la dernière chose que je veux faire, c'est trop y en donner, puis qu'elle aime pas ça un moment donné. Parce que, comme on l'a dit, l'important, c'est qu'elle aime ça. C'est la seule manière qu'elle va jouer plus longtemps, c'est si elle aime ça.
Oui, exact. Tu sais, je suis pareil, t'sais, mon enfant, il vient d'avoir 2 ans. Moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais bon, mais à la maison, j'ai bâton de golf. Je l'ai spécifié tantôt, mais cette semaine, je lui ai dit acheter un T-ball. Je n'ai pas dit hey Logan, c'est ça qu'on s'en va faire. J'ai dit non. Hey, mon petit loup, check ce que je t'ai acheté. J'ai montré une fois. Puis là, à chaque fois qu'il arrive la garderie, c'est papa, baseball. C'est ça qu'il veut faire. Dans la maison, c'est son bâton de golf. Dans la maison, on se lance la balle. On se lance une petite balle de baseball. Elle est en mousse, on s'en lance pareil. T'sais, lui, il ne peut pas attraper, mais il va lancer, il va aller la chercher, il va me le relancer, puis il trouve ça drôle. On pratique des gestes très de base, là. Le lancer, là. Si on est capable d'y apprendre à juste passer la balle par-dessus son épaule, mais quand il va rendre à 4 ans, il va être capable déjà de le faire. Je vais pouvoir dire « Place ton pied devant. » Bon, on va aller jouer au ballon chasseur. Il va pratiquer à lancer. Ouais. Puis il va trouver ça, il va essayer de me lancer la balle d'en face, il va trouver ça drôle. Puis moi, je fais pratiquer un lancer. Donc, c'est des choses comme ça que
quand
moi, je
fais de poids,
exactement.
De la base.
Oui, puis c'est des choses que tu peux reprendre dans plusieurs sports. T'sais, on joue badminton, bon, ben c'est le même affaire qu'un lancer. On passe par-dessus l'épaule. C'est juste que c'est un objet qu'on frappe plus haut. Donc, c'est des gestes de base, l'habileté motrice qu'on va aller chercher puis qu'il va pouvoir utiliser dans plusieurs sports aussi. Là.
T'as-tu d'autres trucs de réflexes, d'habileté motrice, justement, qu'on peut développer des petits jeux. Tu m'en as nommé sur la glace, mais en général, justement, tu sais, juste lancer la balle, j'ai remarqué, là, les enfants, quand c'est jeune, c'est drôle, là, parce que tu lui pitches une balle, puis
ça leur regarde pas.
3 secondes plus tard, ils les mains bougent.
Mais je pense que en partant, c'est de trouver des choses qui sont plus faciles pour eux. Donc, tu veux apprendre à attraper, lance-y un ballon, une balloune. Une balloune, ouais. Tu sais, ça va flotter, là. En termes, c'est un ballon, là, mais une balloune, ben, ça va flotter. Il va avoir le temps de l'attraper puis de comprendre le geste. Mm-hmm. Bon, ben, plus tu vas aller, tu vas pouvoir prendre une balle qui est un petit peu plus léger, mais plus pesant qu'une balloune, puis il va pouvoir l'attraper. Puis éventuellement, il va comprendre le concept de l'attraper. Mm-hmm. On parle d'équilibre. Bon. Mets-y sur un petit saut, mets-y une petite oreiller en dessous. Bon, mais c'est plus stable. Puis tu lui dis, mets-toi sur une jambe. Et puis on fait semblant de tomber. T'sais, lui, c'est vraiment de l'acquérir. C'est de marcher sur une poutre. C'est de l'équilibre. Il y en a plein au parc actuellement, puis ils ne sont jamais utilisés parce que les enfants ne savent pas quoi faire avec ça présentement. Là. Ben, marche sur la poutre, puis saute. Bon, ben, on apprend des gestes de base. On saute pourquoi? Ben, on saute au volleyball. On saute au badminton, de temps en temps. On va sauter au football. On va sauter au basketball. Il y a tous des gestes de base. Une roulade. Bon, mais une roulade, tu fais dans quoi? Mais quand je tombe, peu importe le sport que je vais tomber, je vais faire une roulade. Ah ouais. De la façon de te protéger. Bon, ben, des petits parcours, ça peut être vraiment des petits parcours de motricité. Là. Sauter, attraper, lancer, courir, courir par en arrière, ramper à genoux. C'est vraiment des choses là, qu'on fait vraiment avec les maternelles 4 ans, maternelles 5 ans pour s'assurer qu'ils ont cette base-là, pour que quand on arrive à des sports, ben, ils sont prêts pour le prochain niveau, dans le fond. Là.
Excellent, Max. J'adore tous les petits trucs que tu viens de me donner. Je vais les appliquer tout en voyant ce qu'elle aime faire, mais justement, j'aime bien ça, ce qu'on vient de développer, d'apporter des petits jeux. Puis, tu sais, souvent, c'est important de le faire avec eux. C'est ça qui, tu sais, c'est pas moi qui le regarde. Puis
non, c'est ce qui les motive.
Faire un pied avec elle. Ouais. Puis, c'est des petites affaires qui ont l'air simples, mais pour eux autres, c'est vraiment un jeu. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit, je me souviens avec ma petite fille, on est allé patiner une des premières fois cette année. Puis, j'avais essayé d'y expliquer comment embarquer sur la glace, parce que quand t'embarques, tu sais, c'est beau quand t'es tout le temps sur tes deux pieds, mais quand t'embarques sur un pied au début, puis tu glisses. Ça, elle avait bien, bien de la misère, elle avait tombé. Puis là, j'y avais expliqué, tu sais, qu'il faut que tu pratiques, puis des lunges. J'y avais expliqué c'est quoi un lunge. Honnêtement, genre, 6 heures plus tard, chez nous, ma fille, en train de checker la télé, se met à faire des lunges sans que je dise rien.
Exact. C'est.
Je pratique, check papa, je pratique mon patinage.
C'est ça.
Je suis comme, wow.
C'est des choses, puis ils aiment ça apprendre. Hein, les enfants, là, de base, ça l'adore apprendre. Mm-hmm. Pourquoi? Mais parce que c'est nouveau, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je veux faire. Papa, il le fait, maman, il le fait. Moi aussi, je veux le faire. Donc, si tu es capable de le faire puis de le démontrer, sans même lui dire, ça va être une habitude qu'ils vont prendre. C'est des choses qu'ils vont faire par la suite. Là.
Bon, ben Max, le couvre-feu s'en vient. Exact. Il va falloir qu'on y aille encore une fois. Je te remercie énormément. Honnêtement, le dernier segment a été mon préféré de l'épisode. C'est pas parce que la saison des Canadiens va super aussi mal. Ça a peut-être un petit peu rapport avec ça, mais honnêtement, je l'apprécie. Puis on le dit, là, c'est quelque chose que je veux développer. Fait qu'on va en reparler un petit peu à tous les podcasts. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde qui ont pris le temps de nous écouter jusqu'à la fin. On a parlé pas mal de hockey, de développement. Si vous avez des idées, des commentaires, de choses qu'on peut développer. Ou si vous avez des questions pour Max aussi, comme il l'a mentionné, entraîneur au hockey, éducateur physique, je pense que même moi, j'ai été impressionné par le... Non, mais pour vrai, tu ris, mais j'ai... Tu sais, c'est des affaires que tu fais dans la vie, puis ça a l'air simple peut-être pour toi, mais c'est une très bonne idée. Puis moi, je pense que aujourd'hui, si tu m'aurais pas dit ça, le développement de mes enfants pour le sport dans la vie va être grandement amélioré. Fait que peu importe qui a écouté ça aujourd'hui, si vous avez des enfants, ben, je pense que c'est une très bonne technique. Puis je t'en remercie beaucoup.
Merci à toi.
Merci tout le monde. On se reprend une prochaine fois. Bonne game les Canadiens qui débutent à l'instant à Edmonton.